Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au 37e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Diva Quest, la compétition d'art vocal pour adolescentes du sud-ouest du Wisconsin. Ça se ressemble beaucoup, mais nos talents vocaux sont limités à faire des imitations incroyables du cri d'un aigle, comme dans cet extrait vintage de Divan Quest.
Il y a un hymne américain en trame de fond avec un cri d'aigle au loin.
Oui! Je pense...
Pourquoi j'ai pris une gorgée en même temps?
Je savais que j'allais rire.
Alors, bonjour tout le monde. En fait, je prends un petit peu de temps aujourd'hui pour célébrer le 5 décembre, qui est la journée internationale du ninja.
Yeah!
Alors, j'aimerais saluer tous les ninjas qui nous écoutent. Ah, d'ailleurs, il y en a 4 dans le studio présentement.
Mais on les voit pas. Paraîtrait.
Je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et de Jean-François Lapas.
Salut!
Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Commencez par Danny.
Ben oui, ben je dirais que pendant que l'univers virait fou là, pour la NES Mini, hein, qu'il y a eu sa sortie, les premières disponibilités.
Ben oui, ben on a même commenté sur la situation.
Exact. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un NES 101, le deuxième modèle de NES, là, plus connu sous le nom de Top Loader.
Ouais.
Donc, celui qui fonctionne un peu plus comme un SNES, puis qui n'a pas le style patente dedans avec les pins qui plient et qui ne marchent plus. Là. Ouais. Fait que je suis assez content, très, très heureux, en fait, d'avoir eu ça. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de jouer autant que j'aurais voulu, pas eu le temps de donner tout l'amour qu'il aurait besoin. mais j'ai quand même quelques petits jeux dans ma ligne de mire, là, puis probablement un peu plus de rétro dans les prochains Divan Quest de ma part pour ça, parce qu'on aime ça, le NES.
On est dû pour faire un peu plus de rétro. Je m'ennuie.
Quand même. Sinon, j'ai découvert cette semaine une nouvelle série de petites vidéos qui répertorient des portions d'histoires de jeux vidéo avec une narratrice qui s'appelle Britton Stripes, qui a un charmant petit accent british qui est agréable à entendre, puis qui raconte dans le fond des histoires inspirantes sur des jeux qu'on connaît, avec une illustration vraiment, vraiment cute de l'illustrateur qui s'appelle KOTOR. Comme le jeu.
Comme le jeu.
Oui. Bref, je vous partagerai ça sur les réseaux sociaux, mais c'est très, très intéressant. C'est ma petite recommandation de la semaine. Puis il y a ça que j'ai trouvé cette semaine. Sinon, il y avait le vendredi afro-américain, là, le Black Friday. Ouais. Puis je me suis pogné Guitar Hero Live à la Wii U pour un petit 40$, le bundle avec la guitare.
Nice.
Avec un bon prix. Ça fait un petit bout de temps que j'avais le goût de jouer. Ça me démangeait la guitare en plastique. Là. Puis... C'est ça, mais tu sais, quand il est sorti, c'était quand même. Ben, c'est pas donné, c'était un bundle de Guitar Hero, là, c'est le prix que ça vaut, on comprend.
Puis on en avait reparlé il y a pas longtemps, tu sais, que j'ai rejoué avec des amis il y a pas longtemps, un certain temps, puis juste de se réinvestir là-dedans parce que mes instruments marchent plus ou moins bien. Voilà. C'est comme, ouais, avant, on jouait tout le temps, mettre 260$ pour un bundle, c'est correct, mais là, jouer une fois par
l'occasion,
mois, dans un party. Fait
que je me disais justement, ah, tu sais, m'en est, là, s'il y a un spécial, puis comme le fait, là, à 40$ pour le jeu, puis la guit. C'était le moment. Fait que je me suis pogné ça. C'est vraiment intéressant là, pour le Guitar Hero, ceux qui ont suivi. C'est le modèle avec les 6 boutons sur 2 rangées de 3. Fait que t'as comme le côté en haut, en bas. Puis donne un petit feel un peu plus, entre guillemets, réel. Là, où est-ce que tu fais des accords. Puis des, c'est quand même cool. Là.
Puis ça renouvelle le jeu. Ça devient un autre défi complètement. Là.
Oui. Puis sinon, tu sais, le visuel est quand même beaucoup retravaillé. Là. C'est plus des cartoons. C'est vraiment. T'as le mode carrière où est-ce que tu joues en first person.
Fait ouais, c'est tout du live action.
C'est vraiment nice, là. Puis quand t'es pas bon, le monde te hue. Puis.
Ton Ben qui te regarde de travers fait juste comme qu'est-ce que tu
fais?
Chris!
C'est un peu comme. Il n'y a pas Robin VR qui fait ça aussi. Que...
Ah, ça se peut, j'ai pas suivi. Vu que c'est.
Tu peux pencher la tête puis voir le.
Ah, ouais, ouais, moi, ça te regarde
le manche.
Ça le fait pas, là. Mais l'écran le fait, mais c'est pas toi qui le contrôle. C'est très drôle. Là, tu regardes les fans. Puis des fois, tu reconnais les mêmes styles figurants qui reviennent. Mais habillé différemment dépendant des shows. Là,
avec un Groucho Marx, là, avec des lunettes,
ouais,
un
ça.
Nez, des moustaches.
sinon, il y a aussi un mode quand même intéressant qui s'appelle Guitar Hero TV, qui est comme un peu remettre au goût du jour le principe de Guitar Hero. Là. Le goût du jour étant en musique, on n'écoute plus la musique qu'on possède, on écoute la musique en streaming. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme 2 canaux de musique en streaming, là, GH1 puis GH2. Puis c'est vraiment des vidéoclips qui jouent.
Puis tu peux hop in and play.
T'embarques puis tu joues. Puis dans le fond, c'est les vrais vidéoclips, c'est intéressant. Tu connais un peu la thématique qui va jouer, là, du rock ou un peu plus de pop.
Mais le côté que je trouve intéressant, c'est pas juste de renouveler la formule Guitar Hero, c'est de vraiment créer quelque chose qui est en background. T'sais, tu fais un party, tu mets de la musique, tu mets Guitar Hero.
C'est ça.
Puis là, quelqu'un veut jouer, il pong la guitare puis il commence à jouer.
Mais combien de tunes?
Je sais pas, il y en a combien en tout, parce que...
Tu sais, s'il y a 40 tounes, ça
fait... Non, parce que dans le jeu, il y a à peu près une quarantaine de tounes dans le jeu, que les autres, tu peux jouer n'importe quand, tout le temps. Puis dans le streaming, bon, t'en as vraiment un bon paquet. Puis en fait, tu peux aussi...
C'est pas comme le jeu qui...
Non, c'est vraiment du streaming en connexion sur Internet.
OK.
Oui, puis tu t'embarques, tu joues. Quand tu joues des tounes, là, tu gagnes des coins que tu peux utiliser pour acheter des plays puis choisir une tune que tu veux jouer. Il y a des packs que tu peux payer. Il y en a un quand même intéressant que je me dis, ah, ça, c'est vraiment cool. L'idée, tu payes, je pense que c'est comme 7$, puis ça unlock toutes les tunes, un play illimité pour 24 heures. Fait que tu fais un party, mettons, tu peux choisir la tune, passer à la guette à l'autre, choisir une tune, puis non-stop. T'sais, c'est comme...
Ben, je pense que c'est un bon exemple de comprendre le cas d'utilisation de ton produit. Mm. Le monde joue moins, mais ils vont jouer quand ils ont des amis over, puis voilà, tu donnes la librairie pour cette journée-là. Comme ils faisaient un petit peu aussi avec... Microsoft avait fait ça avec c'était Lips, je pense, qui était leur jeu de karaoké. Puis tu pouvais justement débarrer. C'est pas Eclipse, mais en tout cas, bref, il avait fait un. En téléchargement, il avait fait un jeu de karaoké. Puis tu pouvais débarrer pour des périodes de temps.
Ouais, mais il l'avait pas sur Wii U, mais je pense que j'ai vu sur Xbox One un bundle où est-ce que ça venait, je crois, là. Puis là, je jouais un peu de mémoire avec deux guides. Puis en haut de 500 tounes. Fait que prenant genre toutes les tounes de débarrer, un genre de party pack. L'avoir eu, je l'aurais acheté, là. Parce que pour la différence de prix, ça. Mais ils l'ont. Je pense que la Wii U a pas levé pendant tout le jeu.
Ouais, ça s'était passé pour qu'ils suivent.
C'est ça. Sinon, j'allais dire, tout ce qui manque à ce fameux GH1-là, c'est comme dans le temps de Musique Plus, nos fameux VJ puis les téléréalités où est-ce que les gens sont enceintes.
Les plans de caméra qui shake.
On est jeune, on est cool, la caméra n'est pas capable de tenir droite.
Ouais. Sinon, j'ai fait pas mal de routes dans les derniers temps. Donc, je me cherchais quelque chose à écouter en auto. Puis, j'ai essayé de fouiller un petit peu dans le répertoire de mon nouveau petit dada, là, La lutte, qu'appelle. Puis je suis tombé sur le podcast Talk is Jericho de Chris Jericho, un lutteur.
Oui, oui, oui.
Je dirais que c'est assez inégal comme qualité. Il y a des trucs super intéressants où est-ce qu'il parle avec du monde qui sont complètement dans d'autres domaines de la lutte, là, dans la musique, dans, ce qui est très intéressant. Il y a des pods où est-ce qu'il parle avec des lutteurs ou des anciens lutteurs, puis tu brises le quatrième mur, tu brises le kayfabe, tu parles de ce que c'est vraiment, puis c'est hyper intéressant pour quelqu'un que ça intéresse puis qui voit la lutte comme un show, tu sais, comme ce que c'est réellement. Mais il y a un épisode que j'ai écouté où est-ce que ils font de temps en temps là, avec d'autres, ils l'appellent Talking Shop avec deux autres lutteurs, puis souvent un troisième qui est un peu plus random. Puis tu comprends que c'est l'épisode qu'ils font quand ils sont random à quelque part dans un hôtel, puis ils peuvent rien faire. Là.
Ouais,
les gens sont à Shanghai, là. Fait que tu comprends qu'ils peuvent pas faire grand-chose.
Parce qu'il y avait un gala à Shanghai.
Parce qu'il y a un gala, il y a probablement une tournée en... Je pense qu'ils ont fait genre 5 shows dans 5 pays, là, une affaire de même. Là,
en
5
jours.
Ben, à peu près. Là. Fait qu'ils sont dans une chambre d'hôtel à Shanghai, ils ont clairement bu, sont à moitié sous, puis ils font un podcast, mais c'est n'importe quoi. Pendant le show, là, ça cogne à la porte, c'est le service aux chambres qui vient de leur livrer de la vodka. Ils ont même pas pesé pause. Ils niaisent avec la fille qui a un nom chinois qui est bon, pas commun pour nous autres. Puis l'autre qui est un chinois aussi, mais qui s'appelle Albert, tu sais. Puis pendant que l'autre est en train de payer la fille, t'en as un dans le micro qui te lâche un. Mais un vrai. Ah, écoute, c'est n'importe quoi. Fait qu'on voit que même les
je pense que c'est plus le format, c'est le podcasting qui réellement.
Ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai quand même trouvé ça drôle, mais il y a des épisodes beaucoup plus intéressants que ça. Là. Puis, ben, comme j'étais sur la route beaucoup. Un peu moins.
Ça ne nous regarde pas, ça.
Un peu moins de temps de gaming, donc j'ai joué un peu plus à des trucs qui se jouaient mobile, mettons, puis j'en reparle un peu plus dans mon segment. Toi, Matt?
Ben, je regarde mes notes, puis la première chose de cette semaine, c'est d'écrire « fucking ordi à marde ». Ça dit quand même ce que ça a à dire.
Je devrais pas rire, je m'excuse.
Non, il n'y a pas de trouble. J'ai été forcé de réinstaller mon ordinateur cette semaine, qui, bon, ça intéresse absolument personne, mais ça m'a donné le temps de jouer un petit jeu du nom de Replica sur mon téléphone. J'en parle pas plus que ça là, parce que c'est pertinent avec l'autre jeu que je vais parler plus tard. Donc, ça m'a donné quand même le temps de faire ça, fait qu'il y a du bon.
Ça suffit les teasers, les gars.
Ouais. Non, on aime ça.
Parce qu'on a assez peur que le monde coupe après ce qu'on a fait cette semaine. Tu sais, c'est clairement le bout le plus intéressant du show.
C'est pas comme si c'était pas écrit dans la description de l'épisode.
On a déjà parlé de ça, puis on a la preuve. Il y en a qui le lisent pas. Fait qu'on...
Il y en a si peu qui le lisent. Ensuite, j'ai finalement, à travers les... En fait, ça avait commencé avant l'épisode précédent que j'ai commencé à jouer à Call of Duty Infinite Warfare, qu'on avait déjà mentionné que ça allait arriver. Hein? Et je l'ai fini entre les deux épisodes. La campagne, dis-je. Très satisfaisant. Sérieux, ça fait une éternité que j'avais pas joué à Call of Duty, fait que c'est sûr que probablement que j'aurais été satisfait peu importe, là, parce que je joue plus à des FPS de ce genre-là du tout. Fait que j'arrive là-dedans, puis beaucoup, beaucoup de plaisir. Les sections en vaisseau sont tellement satisfaisantes, puis c'est une grosse partie du jeu, ce qui fait que j'ai vraiment eu mon feel. Une campagne l'histoire un petit peu générique, mais tellement bien contée. Bref, un beau petit FPS pour ceux que ça intéresse. On n'en fera pas toute une critique parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais belle campagne. À peu près 8 heures si tu as toutes les side missions, ce qui est quand même cool de la part d'un Call of Duty, que je suis habitué comme à 4 heures. Puis le petit côté sci-fi, ben, il m'a donné le goût de l'essayer. Puis on dirait que c'est ça le thème cette année pour les FPS, hein, c'est d'avoir des campagnes single-player qui valent la peine d'être jouées.
Avec Battlefield aussi, qui était pareil.
Puis avec Titanfall 2. Mm-hmm. On dirait qu'ils se sont rappelés qu'il y a du monde qui achète ça pour les campagnes, puis qu'il n'y a pas juste le monde qui sont prêts à payer 80$ plus des season pass pour jouer un jeu en multijoueur seulement.
Allô?
Ben, c'est ça. Fait que, ben, puis moi aussi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Fait que, bref, je vais probablement passer plusieurs FPS qui sont sortis cette année au courant de l'année prochaine, parce que pas toutes là au prix qu'ils sont. Mais c'est quand même le fun de voir un retour. J'espère que ça va être quelque chose qui va s'installer. Ensuite, j'ai joué à House of the Dying Sun, qui est un jeu arcade space shooter avec un côté tactique assez important. Mais ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est qu'il y a un support VR qui est vraiment, vraiment exceptionnel. J'avais pas vraiment pris la peine de jouer à des jeux en réalité virtuelle qui étaient assis. Parce que la HTC Vive, le kit de réalité virtuelle que j'ai, focus vraiment sur utiliser une pièce complète, puis se déplacer, puis être en mouvement. Ce qui fait que tous les jeux assis, t'es juste comme, ouais, mais tu sais, des jeux assis avec une manette, je peux jouer sur un écran. Cela dit, il y a quand même des belles qualités à un jeu en VR pour un jeu de cockpit.
Mais c'est ça, tout ce que j'allais dire. Les jeux de cockpit, ça reste intéressant.
Je pensais que t'allais dire, cela dit, Renault oblige et espace de VR étant occupé par autre chose.
C'est tout vrai. Mais je t'ai intéressé aussi par, évidemment, toutes les Space Sims. Puis ça donnait à peu près le seul jeu de VR que je pouvais jouer récemment. Fait que j'ai mis la main là-dessus. Puis je trouvais ça intéressant aussi d'avoir un Space Sim présentement. Ben, je t'en qu'il n'y ait pas un Space Sim, qui est un jeu arcade, parce qu'il y a beaucoup un focus présentement sur les jeux de combat spatial qui sont hyper réalistes, mais complexes, disons. Tandis que lui, c'est pas le cas, pas une maudite minute. Ce qui fait que ça m'a permis de pouvoir juste m'asseoir et de jouer. Puis il va chercher sa profondeur ailleurs. Il va le chercher dans la profondeur tactique, dans la rejouabilité, parce qu'il est vraiment focusé alentour d'une série de niveaux qui sont courts à jouer. Mais tu peux les jouer à 3 niveaux de difficulté, chaque tableau. C'est pas la campagne que tu fais, fait que tu peux toujours rejouer les anciennes missions. Et tout ce que tu acquiers en avançant, tu l'as quand tu reviens faire des anciennes missions. Donc, il compte pas sur le fait que tu es capable de faire la première mission à plus haute difficulté la première fois. Fait que quand tu débarres, mettons, des nouvelles armes aussi, des squadmates, du monde avec qui tu peux donner des ordres, donc tu deviens mieux équipé à faire des missions. Fait que tu peux revenir en arrière et aller chercher les récompenses de ces missions-là. Ce qui fait qu'il y a une structure, genre, bref, très très libre pour le jouer, puis il donne beaucoup de raisons de jouer au contenu que tu as déjà fait. Donc, ça fait un beau petit jeu très accessible, puis qui a une belle interface en réalité virtuelle, qui est, pour un jeu qui n'est pas que réalité virtuelle, toute son interface est très très bien adaptée. Vraiment satisfaisant.
Puis tu as joué avec une manette ou tu as joué avec ton joystick?
J'ai joué avec une manette parce que le jeu est vraiment designé pour une manette. Okay. Dans les nouvelles mises à jour, ils ont commencé à rentrer plus de trucs pour faciliter ceux qui veulent jouer avec des joysticks, mais ils disent sur la page de la communauté Steam, c'est carrément dit que c'est vous autres qui décidez de jouer avec un joystick. Il n'est pas fait pour ça. Parce qu'exemple, la façon que l'accélération fonctionne, c'est que tu es en vitesse constante puis tu vas juste comme donner un boost ou breaker. Puis il revient de vitesse neutre par lui-même si t'es pas en train de breaker.
Ça, il a pas été conçu pour ça à la base. Fait que c'est comme, ben, amusez-vous, mais comprenez qu'on l'a pas fait dans cette optique-là. Fait que...
C'est ça.
C'est pas un simulateur, c'est un jeu d'arcade. Comme
bingo. Mais ils ont quand même introduit le throttle up, throttle down pour ceux qui veulent jouer avec une manette des gaz récemment. Mais c'était pas là au début du tout. C'est comme, il est pas fait pour que tu puisses contrôler, genre. Parce que quand on a un joystick, là, absolument, on a une manette des gaz qui a une position. C'est ça ta vitesse. C'est pas juste un en haut, en bas. T'sais. C'est pas comme une pédale à gaz. Fait qu'il n'était pas construit pour ça. Mais là, il a commencé à rentrer des options un petit peu pour ça. Il y en a qui disent... Le reviewer sur Kotaku disait qu'il jouait avec son joystick puis que ça allait bien. Mais il faut doute que tu mappes les boutons manuellement. Puis ça me tentait juste pas. Je voulais masser puis jouer.
Ouais, c'est ça. Des fois, c'est le fun de s'asseoir puis jouer puis pas passer 3 jours à setuper le jeu. Là.
Ouais, ben surtout en VR, où est-ce que tu mappes des boutons que tu vois pas. Fait qu'il faut que tout soit immédiatement accessible. Ouais. Fait que bref, la manette fonctionne très bien. Puis... Non, c'est une très belle expérience de jeu que j'ai eu cette semaine. J'ai pas mis beaucoup de temps encore dedans, mais chaque minute a été très appréciée. Sur un côté un peu plus intellectuel du gaming, il y avait un article qui a été publié cette semaine sur Kotaku, qui est un article en gros sur la préservation de l'histoire des jeux, qui est vraiment, vraiment à lire, parce qu'il nous présente justement l'idée de jeux qui... Ben, en fait, que l'histoire des jeux est mal conservée. Parce que toute l'idée de conserver le code source, c'est quelque chose qui appartient à une compagnie. Donc... Le code, la base du jeu, pas juste le produit qu'on peut acheter, il est amené à disparaître parce qu'il n'y a personne qui a vraiment intérêt à le garder. qui n'a pas un intérêt financier dans la chose. Fait que si la compagnie disparaît, ben tout ce code-là, souvent, fait littéralement disparaître et pas conservé. Fait que l'article traite de ça en fond. Puis il relève là, deux exemples qui avaient été vraiment intéressants. Premièrement, le démo de Mother 3. Mother 3 qui est la suite de Earthbound, là, pour ceux qui sont moins familiers. Il y avait eu un démo de la version en 64. Pour le Nintendo 64 de ce jeu-là. Okay, ouais. Puis il y a eu un démo où il était présenté dans des conventions, il y a eu du code, il est fonctionnel, cette démo-là.
Puis c'est...
Personne n'est capable de le trouver. Fait que c'est perdu, ça. Puis tu sais, on aurait pu voir comment que ça aurait été approché. Il y a un côté, bref, histoire des jeux vidéo qui est hyper intéressant à regarder. Présentement, c'est impossible. On a juste un petit peu de footage. Puis en fait, je m'en... à peine du footage.
Moi, je pensais que pour conserver les vieux jeux vidéo, ils enterraient dans le désert.
Pour faire des documentaires plus tard. Puis...
Oui, c'est ça. Puis voir aussi, George R.R. Martin débarquer d'une DeLorean.
comme ça arrive dans le monde des jeux vidéo. Là. Puis, mais il y avait aussi un autre exemple qui est plus heureux, mettons, comme dénouement, où on a des jeux de Kirby. Parce qu'au Japon, il y a eu le Satellaview, qui est une plateforme réseau satellite qui se pluguait sur le Super Nintendo. Parce que c'était des jeux qui étaient distribués comme un service de câble. Et les jeux qui étaient là-dessus, bien évidemment, tu le téléchargeais, puis il était sur ton appareil, mais aussitôt que tu loadais un autre jeu, il disparaissait. Fait qu'il fallait trouver quelqu'un qui l'a encore dans sa machine pour en extraire le code. Fait qu'il y a plein de jeux comme ça qui n'avaient pas de dump, mais de copie existante.
Tu parles de câble par satellite, mais ça fait penser à VideoWay avec des jeux comme Temporal Inc. On a déjà parlé de tout ça. C'est des jeux qu'on peut les rejouer sur Internet, mais ils ont été recodés de zéro.
Tandis que là, par contre, au moins, le code au complet était téléchargé dans ton appareil. Fait que c'est possible qu'il y en ait des copies à quelque part de quelqu'un qui a... Ça a été le dernier qui a joué, puis qui a encore un appareil. Ouais. Puis il y a eu 4 jeux de Kirby. Comme ça, okay. Qui était juste disponible sur Satellaview, puis qui avait des copies existantes. Puis Frank Cifaldi, qui est un préservationniste, bref, un historien des jeux.
C'est un préservatif.
un historien des jeux vidéo qui a parti une campagne de sociofinancement pour acheter ces copies-là. Okay. Pour qu'ils puissent après ça les extraire, les distribuer en ROM, puis que tout le monde puisse y accéder, puis qu'on puisse justement. Constater ces jeux-là. Ouais, ouais. Fait que 4 jeux comme ça qui ont été récupérés, mais à des prix de con, parce que c'est ce qui arrive, là. C'est des hosties de revendeurs qui se ramassent à avoir ça dans les mains et qui veulent faire leur pièce sur l'histoire, finalement.
Mais tu sais, même plus récemment, là, c'est un peu quand on avait parlé il y a une couple de mois de Nostalrius, là, le serveur classique de World of Warcraft là, qui a été fermé et tout ça. Mais il y a des gens que c'est ce qu'ils disent. Ils disent, c'était pas le fun tant que ça. Il y en a qui sont nostalgiques, mais c'est pas vrai que c'était le fun quand tu rejoues. Les nouvelles itérations du jeu sont beaucoup plus intéressantes et engageantes pour le joueur. Mais il y a un côté historique à ça que ben là, la seule compagnie qui l'a, c'est Blizzard. Puis les autres, ils n'ont pas nécessairement tout le temps d'intérêt financier à ça. Puis là, ceux qui essaient de le faire revivre, ils se font un peu taper dessus. Mais il y a un petit côté historique à ça de. OK, ça avait l'air de quoi, ce jeu-là?
Il y a plus qu'un petit côté historique.
Oh oui.
Puis même Blizzard, quand il parlait justement là, de la faisabilité d'un serveur classique, il disait que ça demandait justement des efforts importants. Puis c'est comme, OK, vous avez pas gardé genre un côté vanille. Là. Vous l'avez pas. Genre, vous pouvez pas juste comme allumer une Switch et partir à un serveur.
Non, c'est ça. Il y a des vieux serveurs comment qui ont ça? Vendu. En fait, les boards ont été vendus en auction, des vieux serveurs comme un genre de relique. Là. Mm-hmm.
Mais c'est ça. Fait que, ils ont volontairement détruit, ou en tout cas rendu difficile d'accès de leur histoire, une compagnie active. Fait qu'imagine quelque chose qui a 30 ans.
C'est clair.
C'est intéressant tout ça. Voilà, fait que c'est un article qui est vraiment en longueur puis qui traite de plein d'aspects de ça qui est vraiment hyper intéressant. Je vous suggère de le lire. Évidemment, on va poster ça sur les réseaux sociaux. Toi, Jeff?
Écoute, cette semaine, après avoir surpris mon fils en train de tabasser quelqu'un à GTA...
J'étais un peu déçu, mais OK.
Non, mais tu sais, en bon père, quand il me voit jouer à GTA, puis il dit « Papa, moi aussi, je veux conduire le gros camion », ben, tu donnes la manette, puis tu laisses conduire le gros camion.
Moi aussi, papa, je veux tabasser une prostituée dans une ruelle.
Non, mais ça a commencé avec un gros camion, tu comprends? C'était innocent. Non. Mais ça apprend vite, ces petites bêtes-là. Puis là, il a vite voulu me demander comment je fais pour la choisir moi-même. Mais là, tu peux sur Triangle, tu vas sortir, tu vas pouvoir te déplacer. Puis là, tu sais. Fait que là, il choisissait ses autos. Il trouvait ça bien drôle. Fait que
maintenant, il connaît bien ses formes.
Oui, non, mais il est excellent. Mais il trouve ça très drôle. Il dit des fois, papa, quand tu veux prendre une auto, il brise la fenêtre avant. Je suis comme. Ouais. Puis,
c'est du bon parenting.
Mais je me contentais de ça, de le laisser conduire. Puis, tu sais, la maison chez nous, c'est fait sur 2 étages. J'étais à l'étage, puis je descends au salon en bas, puis en descendant les marches. J'arrive, puis je vois
mon gars en train de... Le NPC couché à terre en train de se faire tabasser un grand coup de pied dans les côtes. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais là, il a pas voulu que je prenne l'auto.
J'ai tellement l'innocence d'un enfant. Oh, mais là,
il m'a frappé, mais je me suis défendu. Il dit, ben, t'as pas tort, mais...
Peut-être changer de jeu. Hein?
Ben, c'est, t'es peut-être rendu, t'en connais un peu trop, on va jouer à autre chose. Fait que je me suis dit, il voulait jouer à des autos. Fait qu'on, j'ai mis la main sur Mario Kart. Il y avait un DS. J'ai dit, on va aller chercher Mario Kart.
Moi, c'est ça, il est en train de tabasser Luigi parce qu'il voulait son bike.
Ben non, mais je suis allé au EB Games.
Fait que t'as tabassé un comédie EB Games.
Ouais.
Ça passait bien proche. Non, non mais je me suis questionné. Les garanties, ces jeux, là. Qui achète ça?
C'est ta réflexion, c'est ça?
Quelqu'un qui connaît pas ça.
Non, mais pour tous ceux qui nous écoutent, là, qui achèteraient des garanties, je respecte votre choix, là, je respecte ça. Mais avez-vous déjà retourné un jeu parce qu'il était défectueux?
Si tu l'achètes neuf, il faut que tu boffes tes planchers avec un disque, là, voyons donc, pour avoir besoin d'une garantie. Là.
Ouais. Je pourrais comprendre. Ah ouais, mes enfants, des fois, ils m'agarrent mes disques. Ben.
Mais écoute, je suis sûr qu'il y a. Il y a un bon argument pour une partie de la population, mais c'est clair que c'est juste 25$ de plus.
Ben, c'est ça. Moi, je vois plus l'argument pour le vendeur que pour nous autres. Mais bon, c'était.
Surtout considérant qu'on a quand même quelque chose qui s'appelle au Québec une garantie légale qui fait que ton jeu devrait fonctionner pendant une durée normale pour une utilisation normale. Là.
Exactement.
Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter.
C'est ça. C'est la petite parenthèse légale.
Donc, quand tu des fois, t'arrives au comptoir et ils te demandent-tu la garantie pour 5$, t'as-tu la carte de...
La carte Edge.
La carte Edge. Non, j'ai rien de ça. Je veux juste Mario Kart pour que mon gars joue dans l'auto quand on fait de la route longtemps. Anyway! Donc, c'est terminé. Hein? J'ai fait à croire maintenant que le jeu, ben, il fonctionnait plus. Puis papa était obligé de le supprimer de son PlayStation.
Ça arrive beaucoup. Hein? Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, on avait des bancs qui tournaient là, avec un swivel, comme on dit. À un moment donné, ah, t'es brisé, il tournait plus. Parce que c'est passé.
Mais il n'est pas fou, parce que des fois, je vais dans ma librairie, mettons, pour choisir, partir un autre jeu, il voit que l'icône, comme, oh papa, c'est le jeu des autos, genre, il marche plus, on ne peut plus jouer.
Mais si tu l'avais sur PC, tu pourrais mettre des mods, que tu remplaces tout le monde par des mignons. Tu sais, pourrais tabasser des mignons.
C'est un pensez-y.
Ou être un singe qui vole puis qui tire des chars avec un shotgun.
Qui tue des mignons.
C'est ça.
Sinon, cette semaine, j'ai fait deux découvertes intéressantes. Les internets ont apporté à ma porte virtuelle.
Ta porte?
La porte de la porte virtuelle. C'est vous autres qui êtes allés là. Moi, j'ai juste fermé la porte.
Merci.
C'est moi, c'est moi.
Donc, il y a un sous-reddit, un sous-site de Reddit qui s'appelle r/writingprompt. Donc, comme des
suggestions d'écriture.
Ouais, où, dans le fond, les gens vont écrire un concept en une phrase ou deux, puis les gens vont aller commenter des histoires. Il y a des gens qui écrivent vraiment bien dans ça, puis c'est vraiment intéressant. Et il y en a un qu'on partagera parce que.
Tant que c'est pas de la fanfiction d'Harry Potter.
Non, non. C'est bon. J'ai beaucoup ri. C'était la suggestion qui avait été faite. Ça disait, il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre, ils menacent de nous envahir à moins que M&M puisse raconter l'histoire du monde en 5 minutes. C'est clairement une analogie au fait que M&M rappe rapidement, fait qu'on voulait probablement avoir, tu sais. Mais il a fait une faute d'orthographe. Il a pas écrit « minutes ». Écrit minuette. Donc, donc, ce qui se retrouve à être du ballet, finalement, c'est une danse.
Ah, oh, c'est beau.
Et, parce que.
En 5
minuets. On le mettra en 5 minuets. Donc, on mettra. on le mettra sur les réseaux sociaux, ça vaut la peine.
Wow.
Mais je vous en dis pas plus, mais ça vaut la peine de lire les genres de 3 paragraphes jusqu'à la fin. C'est mourant. La deuxième. Merveille que Facebook a mené jusqu'à ma porte cette semaine. En fait, ça l'a mené jusqu'à mon téléphone pendant que j'étais assis dans le train en retour du travail. Et honnêtement, je riais et je pleurais dans le train. Je me faisais regarder bizarre. Et c'est il y a un channel sur YouTube qui s'appelle Bad Lips Reading, qui prennent des extraits de films puis qui mettent des paroles par-dessus, qui le font dire autre chose selon ce que le lèvre semble vouloir dire.
Et c'est un concept simple qui est long à expliquer. Hein.
Ouais, mais
c'est bien exécuté. Félicitations.
C'était clair?
Oui, oui.
Parfait. Mais cette fois, ils se sont dépassés, en fait. Donc, ils en font beaucoup avec Star Wars. Et cette fois, ils ont pris Empire Strikes Back. La scène sur Dagobah quand Luke va rencontrer Yoda. Mais ils n'ont pas juste remplacé les paroles. Ils en ont fait une chanson.
Oui, parce que ça aurait été facile. Tu sais, les lèvres de Yoda, c'est une marionnette. Ouais.
C'est ça, hein, ça.
Mais ils vont un petit peu plus loin que ça. Ils servent aussi de toute la scène. Puis ils font une mise en scène. Puis ils ont recouper un petit peu là, la section du film. Une petite chanson qui s'appelle Seagulls, qu'on mettra aussi sur les réseaux sociaux parce que je peux, y a pas juste moi qui peut l'avoir dans la tête depuis une semaine. Warning. J'ai besoin de le partager.
Ouais, c'est ça, parce que on l'a entendu tantôt avant de commencer l'enregistrement, puis je suis pas capable de l'enlever de ma tête là.
Ah, je me suis retenu de la chanter, mais vous, c'est collé là.
Ah ouais, c'est ça. Fait que merci Jeff de la part de tous les auditeurs qui vont avoir ça dans la tête toute la semaine.
Ça fait plaisir. Sinon, j'ai une rechute. J'ai eu une terrible rechute. Toi, t'as des rechutes de World of Warcraft.
Oui, mais ouais, elle est pas mal continue depuis une couple de mois. Là.
Cette semaine, je me suis adonné à travailler sur Rosemont. Fait que après travail, je marchais sur Saint-Hubert, juste en bas de Beaubien. Puis on sait le magasin qui se situe sur la place de Saint-Hubert, juste en bas de Beaubien. Carte le fameux Magica. Carta Magica. Ouais.
Oh!
Donc, je passe devant, je suis comme, je vais aller voir. Et je suis ressorti avec le manuel du joueur de Donjon Dragon de la nouvelle édition.
Ça, c'était un high five audio.
Donc, j'ai pas commencé à le lire, mais je vais m'y mettre bientôt. Mais si jamais vous avez la chance de, pas de l'acheter nécessairement, mais de le voir, je vous invite à l'ouvrir, d'aller dans la première page où il y a les crédits de toute l'équipe qui a travaillé sur l'œuvre, sur l'ouvrage. On dit l'œuvre, ça.
L'œuvre. Le monument culturel. Ouais, le monument.
Donc, le fond, il y a tous les crédits, les artistes, les auteurs, les écrivains, tout ça. Et en bas, en tout petit mini caractère, il y a un disclaimer. Okay? Et je vais pas le dire sur le podcast parce que je vais vous inviter à aller le lire vous-même.
Mon Dieu, c'est du teasing.
Ça vaut la peine. Mais et il y en a un comme ça dans chacun des livres de Donjon Dragon, de la nouvelle édition.
Mais on peut dire que c'est une œuvre parce que c'est comme un objet qui a été intronisé au temple de la renommée.
Quand même.
Du jouet.
Du jouet. Avec la balançoire.
La boîte de carton et le bâton.
Et le bâton. Beaucoup d'enfants ont joué avec le bâton. Récemment, le gouvernement britannique a introduit des nouveaux billets de 5 livres à la fine pointe de la technologie, en ce qui a trait à la lutte aux billets contrefaits. Mais aucun changement aussi mineur soit-il ne peut avoir lieu sans attirer l'ire de quelqu'un à quelque part sur les internes PewPew Web. Il était même pas scripté, c'était improvisé. Dans cette histoire en particulier, les victimes sont les activistes des droits des animaux et les végétariens moraux. La face de Dan vaut 100 piastres. En effet,
en billet contrefait.
En effet, un des produits utilisés dans la production des nouveaux billets est du suif de bœuf. La Bank of England a confirmé via Twitter qu'il y a des traces de suif dans les granules de polymère utilisées dans la production. Il n'en fallut pas plus pour soulever les passions et l'indignation, générant une pétition beaucoup plus efficace que celle pour l'amibo de Karen.
Ben, j'imagine.
Ce qui me fait premièrement questionner sur les priorités des gens. Hein? Mais bon. Mais récemment, la Bank of England n'a toujours pas l'intention de modifier ses plans et prévoit produire les billets de 10 et 20 livres pleins de suif d'ici 2020.
On prévoit une augmentation du taux des sans-abri, alors que tous les végétariens vont boycotter l'argent.
mais tu sais, y a-tu du monde qui pense qu'il tue des bœufs pour ramasser le suif, faire des billets de banque, genre? Y a-tu quelqu'un qui a pas compris que ben, quand tu tues un bœuf, il faut avoir la viande, il y a du gras en extra?
Ouais, mais c'est que tu donnes une raison additionnelle de tuer l'animal. Même si tout le monde devenait vegan, on va quand même avoir besoin. I know, je fais l'avocat du diable. Hein? Mais il y a d'ailleurs des magasins qui ont commencé à boycotter. En fait, qui veulent boycotter le billet.
Ce qui serait illégal.
Ben, effectivement. Mais bon, j'ai une solution à offrir à tous les végétariens qui sont affectés par la situation. Si jamais vous tombez sur ces billets-là, ben achetez de la nourriture végé avec. Faites juste pas manger le billet, puis vous allez être correct. Bon, hein? Fait que... Tutorial. Suite à mon article de fond sur le Toy Hall of Fame et des enfants qui jouent avec leur bâton de la semaine dernière, mon navigateur Internet a senti le besoin de me suggérer des articles, non pas sur les Little People de Fisher-Price, mais bien sur les butt plugs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes à la recherche d'informations pour l'acquisition du dit accessoire, l'article de Cosmopolitan « 10 best butt plugs for beginners » est à éviter, car à nulle part dans le top 10, on ne retrouve les Little People. mais je crois qu'il serait temps de lancer une ligne de produits du VanQuest officiel, commençant par les Little Butt People. Différentes coupes de cheveux pour différentes expériences. On attend vos suggestions de modèles, d'emballages et de slogans au divanquest@gmail.com ou sur Twitter, Bookstagram. Là, bon. Perso, j'ai une suggestion de slogan. Ça serait genre « It's a tight, tight world after all
oh! ».
Bon, revenons à l'actualité. S'il vous plaît. Ce jeudi avait lieu les Game Awards, qui, fidèle à son habitude, ben leur habitude, depuis quelques années, est devenue la place pour présenter des nouveaux trailers de jeux. On a eu droit à un 5 minutes de gameplay de Mass Effect Andromeda, un trailer pour le nouveau DLC gratuit de Shovel Knight, yes, une nouvelle campagne complète, rien de moins, et on a eu un presque teaser du jeu de Telltale Games de Guardians of the Galaxy. Mais surtout, on a eu un nouveau teaser pour Death Stranding de Hideo Kojima, qui devrait possiblement être un jeu un jour, mais qui pour l'instant est une collection de performances d'acteurs bien connus rendues en 3D dans des scènes creepy as fuck. Et parlant de Hideo Kojima, on a finalement eu le droit à la conclusion d'une histoire datant du dernier Game Awards. Ça faisait longtemps, hein?
C'est ce qui est drôle avec ce son-là? C'est comme aussi le début de la toune de Mankind.
Et si vous vous rappelez, l'an dernier, alors que Hideo Kojima était probablement attaché dans un sous-sol chez Konami, il a dû décliner de se présenter pour recevoir son prix de Industry Icon, rien de moins.
Oui.
Eh bien, cette année, maintenant libéré de Konami, il a pu aller réclamer son prix sous les acclamations de la foule.
Mais c'était un des premiers Konami Watch, là, si je me rappelle bien.
Je pense que oui. Ouais, c'est là que je pense que l'enfer a commencé.
C'est le début de la saga.
Il a d'ailleurs dit qu'il croyait avoir tout perdu l'an dernier, mais qu'il n'a clairement rien perdu, grâce à tout le monde, l'industrie, les fans, le public, qui l'ont pu à travers tout ça. Qu'il a même réussi à dire ça en anglais, malgré son anglais assez rudimentaire, disons.
Approximatif, oui.
Ouais. Et ensuite, on a eu Guillermo del Toro, le célèbre réalisateur, que l'on peut voir dans le plus récent teaser de Death Stranding, puis d'ailleurs, c'est une autre personne qui s'est faite fourrer par Konami. Là. On se rappellera qu'il travaillait sur Silent Hills avec Kojima avant que Konami décide de tirer la plug sur tout ça. Eh bien, M. Del Toro a décidé d'aller sur Twitter pour profiter de façon très éloquente de la limite de caractère de la plateforme et verbaliser ce que tout le monde pensait en partageant un message simple et touchant. Fuck Konami, tout en majuscule. J'ai fucking rien à rajouter.
C'est approprié.
On passe à autre chose. Je crois que nous avons eu droit à possiblement un des plus magnifiques tweets qui m'a été permis de voir de la part de Ad Age, un site d'actualité sur les médias et la publicité. Le splendide tweet visait à promouvoir un de leurs articles sur une récente campagne de publicité de Vagisil qui allait comme suit. Lowdown, dehydrated vagina strikes again in Vagisil spot. Donc, en français, là, on pourrait dire toutes les infos. Le vagin déshydraté frappe encore dans l'annonce de Vagisil. Et le tweet est accompagné d'une photo d'un Big Mac.
Hein?
Ma première réaction fut... ça a l'air... Hein? Ouais, non. Deuxième réaction fut... ça a l'air pas pire, un McGina. Mais ma réaction suivante était... Ah, je savais que c'était pas 100% bœuf, ces affaires-là. Suivi de ça se fait-tu un test de pH sur un Big Mac, mettons? Suivi de je peux pas faire ces jokes-là sur le pod. Suivi de ça a l'air que oui. Mais bon, Adage a réagi rapidement, mais pas en effaçant le tweet, comme on pourrait s'y attendre. Ils ont simplement tweeté: nous réalisons que le tweet à propos de l'annonce de Vagisil a utilisé la mauvaise image. Amusez-vous et riez à nos frais ou à nos dépenses.
Ah, mais c'est correct. Tu sais, tu le dis souvent, hein, l'important, quand tu fais quelque chose qui n'a pas rapport, c'est de s'assumer.
Voilà. Fait que, alors, si un jour vous trouvez que votre Big Mac est un peu sec, sachez qu'une solution existe. Je pense.
Parlez-en à votre pharmacien.
Ouais, sérieux, je sais plus quel joke faire avec ce setup-là. Là. C'est beaucoup trop facile de finir par sonner comme Peter McLeod. Ça me tente pas particulièrement. Ça me tente pas qu'on se retrouve avec genre un Nunsesh Gate là, ou quelque chose comme ça. Alors, allons voir où on en est dans la pétition « Un amiibo pour Karen ». Oh. Ben, dans le dernier épisode, depuis le dernier épisode, dis-je, il semblerait que les internets web se soient tournés vers d'autres causes qu'ils ont jugées plus importantes, telles le suivre de bœuf dans les billets de banque, ou encore d'essayer de ramener Bazo TV en onde. Il y a vraiment une grosse pétition sur change.org. Là.
Okay.
En tout cas, et ont délaissé la cause de notre très chère Karen.
Oh.
Nous avons quand même eu droit à un unique nouveau participant à la pétition. Ben, je pense, hein, parce que... Monsieur Mathieu Hull avait ceci à dire... je connaissais Karen du temps qu'elle s'appelait Mireille Mathieu. Go Mireille! C'est donc avec immense chagrin que je vous annonce la fin de la campagne. Un ami beau pour Mireille. Karen. Mais cette campagne prend fin. Mais ce n'est pas la fin de l'épopée. Car suivant la suggestion de Martin Forget sur notre post Facebook sur les Little People, j'ai maintenant un nouveau rêve. Alors, joignez-vous à moi et obtenons ensemble... un little butt people pour Karen. Bon, ben, mais non, mais sérieusement, cherchez pas cette pétition-là, là, je la parle pas pour de vrai.
Ah, il fait longtemps qu'on n'a pas entendu
ça. Ouais, j'ai pensé de changer.
Merci. Donc, cette semaine, je vous parle d'un petit jeu qui m'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, finalement, pendant ma préparation. J'avais d'autres jeux en tête, d'autres sujets en tête, mais finalement, j'ai décidé de prendre celui-là. Ça s'appelle The Tomorrow Children, qui est un jeu qui est sorti le 25 octobre 2016. C'est développé par Q Games, qui sont connus pour leur travail sur la série de jeux Pixel Junk.
Oui.
Donc, il y en a plusieurs. Et par, je ne sais pas si c'est SIE Japan Studio ou c'est SAI Japan Studio. Mais
SIE.
SIE Japan Studio. Mm-hmm. Qui sont juste connus pour avoir travaillé sur Shadow of the Colossus. Donc, vraiment peu de crédit derrière la cravate pour ces développeurs-là. Donc, The Tomorrow Children. On parle d'un jeu qui est gratuit. C'est une sorte de MMORPG gratuit avec des microtransactions au niveau de sauver du temps, des choses comme ça. On va retrouver au niveau des microtransactions quelque chose qui ressemble aux jeux, tous les jeux mobiles, tous les builders mobiles comme War of quelque chose, tous les jeux qu'on a...
War of quelque chose, Clash of telle patente.
Clash of telle patente. Mm-hmm. Tous les jeux...
Quelque chose of King.
Ouais, mm-hmm. Ou s'ils mettent beaucoup trop de budget dans des acteurs connus pour faire des publicités à TV, puis on s'en fout un petit peu. Là. Mm-hmm. Sauf celle de... Clash of Kings, ça, là, son tracteur puis qui passe dans le milieu du terrain. Là,
non,
c'est comme le spin-off.
Ils n'ont pas de TV. Hein,
ouais, c'est
ils ont,
ça,
ils ont des drôles d'annonces. Bon.
on va te croire.
Si au moins quelque chose de bien qui sort de ça. Mm-hmm. Donc, on parle d'un jeu qui est un genre de mélange entre un jeu de construction collaborative à la Minecraft avec un gros aspect d'économie sociale dans un thème dystopique post-apocalyptique inspiré de l'Union soviétique.
Hein? Ouais, c'est
exactement. Bien, donc c'est
Minecraft et le communisme, même combat. Ouais.
C'est un gros morceau en bouche.
Ça ne nous regarde pas.
on parle d'un jeu avec un gros look très très Pixar. En fait, c'est derrière les développeurs qui voulaient créer un jeu avec un visuel comme les films de Pixar. Ils ont développé une technologie d'éclairage différente qui permet de justement aller chercher un côté plus cinématique dans le jeu. Le jeu est quand même beau. Avec un visuel papier mâché inspiré de l'art soviétique, ces affaires-là. Là, c'est
que disponible sur PlayStation?
Seulement sur PlayStation, oui.
OK.
Mais vous allez voir, c'est pas vraiment c'est important de savoir sur quoi c'est disponible à la fin.
Parce que je veux pas que vous jouiez.
C'est ça.
Spoilers.
Donc, je peux juste vous mettre. On contrôle un personnage qui est une petite fille qui apparaît dans le milieu de nulle part. Puis il va y avoir une télé, quelqu'un qui va nous expliquer le but du jeu auquel je viens dans un instant. Ce qu'on comprend rapidement dans le jeu, c'est qu'après une expérience scientifique échouée, dont la teneur n'était pas importante, semble-t-il, mais il s'est passé quelque chose. Il y a des scientifiques qui ont fait des tests, ils ont échoué, et le monde, toutes les ressources naturelles et les êtres vivants de la planète se sont retrouvés mélangés, et ils font maintenant juste comme une couche blanche beige qui recouvre la planète en entier. Donc, tout a fondu, puis c'est mélangé dans une grosse soupe beige, qui dans le jeu on va appeler The Void, donc le néant en fait. Donc c'est immense, c'est énorme, et à travers le Void, il y a des âmes, des esprits qui vont réussir à s'en sortir ou à survivre, et c'est ça qu'on joue. On joue un de ces personnages-là qui survit à tout ça, et notre travail, c'est de se promener à travers le Void, trouver des ressources, les extraire pour reconstruire finalement le monde.
Donc, il y a des îles qui apparaissent dans lesquelles on peut entrer. Et là, on a tout un système de, à la Minecraft, là, avec notre pic, avec notre pelle, avec notre marteau piqueur ou des explosifs. On va ramasser des ressources, on doit les ramener jusqu'à la ville pour reconstruire la ville. Mm-hmm. Et quand on est chanceux, on trouve des petites poupées.
Matroshka
dolls.
Les little people.
On trouve des little people. Et dans le fond, les little people dans le jeu, c'est les âmes des habitants de la Terre avant qu'on doit ramener, puis qu'on peut construire des machines ou qu'on la met dedans. Mais ça va comme extraire l'âme, puis là, ça met des habitants dans le village, finalement.
D'où l'importance d'en avoir un de Karen pour que si ça se produit, on puisse retrouver son âme. Puis...
Alors, je vais y moi pour la campagne. Une matroshka doll pour Karen.
Donc, évidemment, il y a aussi des sortes de monstres qui s'appellent les Isvergs, qui se promènent, c'est comme des genres de géants qui se promènent à travers le néant, puis qui vont détruire nos constructions. Et on peut construire des canons pour les repousser en les attaquant. Donc, le but du jeu se retrouve à seulement être ça, c'est de construire des villes en ramenant des ressources, et de défendre nos sites de construction jusqu'à temps qu'on puisse avoir une assez grande population. Et ensuite, on passe à la ville suivante et on répète l'expérience.
OK, c'est quand même basé sur une structure genre de niveau?
Il n'y a pas de niveau. Tu construis une ville, puis quand terminé, tu passes à la ville suivante.
OK, OK.
Il y a une sorte de structure de niveau à travers, c'est ce que je viens à travers les droits, à travers les permis, ces choses-là.
Pardon?
C'est ce qui vient soutenir le thème. Là.
Continue.
Donc, on joue pas seul, c'est un jeu qui joue en ligne avec d'autres joueurs, tout le monde est dans le même univers, mais on voit presque pas les autres joueurs. Donc, ils vont apparaître comme un peu un petit glitch informatique, puis d'un coup, le joueur va comme sortir de ça, puis il va apparaître dans mon monde, je vais le voir travailler, puis après quelques secondes, quelques minutes, il redisparaît. Donc, il est là toujours, mais c'est que je le vois pas, je peux pas interagir avec lui. Et on a y a des interactions sociales de base, on peut faire des gestes, puis on a un sifflet qu'on peut siffler. Comme pour avertir les autres. C'est les seules façons de communiquer avec les autres personnages à travers le jeu. Le jeu se retrouve à être une sorte d'expérience sociale qui met l'effort de groupe ensemble. Parce qu'on seul, on peut pas y arriver. Là, on voit chaque ville un niveau qu'on a besoin d'atteindre de différentes ressources. Puis il faut en ramener le plus rapidement possible parce qu'il y a les gros monstres qui viennent détruire... puis qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est un genre d'expérience sociale où on met l'effort de groupe puis la communication sans langage, parce qu'on ne peut pas se parler, mais il faut quand même essayer de communiquer dans un genre de parodie d'une société marxiste. ça met l'emphase du jeu en entier, à travers le dialogue, à travers les concepts, la façon qu'on va utiliser nos outils. Ça met l'emphase sur les quotas, sur les bonds...
Les obligations.
Ouais.
Ben non, mais comme des tickets là, de nourriture, là, des choses comme ça.
Okay.
Donc, des quotas, des bons, finalement.
Oui, oui.
Des bons, c'est ça. Ouais, hein? Donc, des quotas, les bons, sur des permis de construction. Si je veux pouvoir construire une maison, je dois avoir ramassé assez de ressources pour avoir gagné un certain statut dans la ville pour que le genre de maître de tout ça qui orchestre ça, mais il me donne un permis qui me permet de le faire parce que je suis un assez bon citoyen. Il y a la notion de droit collectif où ensemble, plus on est ensemble, plus on travaille ensemble, plus on se fait donner des droits pour mieux travailler finalement ou pouvoir se reposer un peu. Et il y a une notion d'éternel recommencement où il n'y a pas de but à ce jeu-là. Le but du jeu, c'est construire un petit village ou une ville, puis quand il est construit, puis qu'on y arrive, ça va dire on n'a plus besoin de toi ici. Donc, prends l'autobus, passe à la ville suivante, puis il recommence. Donc,
wow.
ça devient une satire kafkaesque des jeux free-to-play qu'on va retrouver sur des plateformes mobiles, justement, comme toutes les Clash of Clans, ces choses-là, tous les jeux de construction où on doit construire notre petit village, puis où on est incité à revenir à travers le temps, ou qu'il y a à la Tiny Towers, puis ça, là, où bon, tu construis une pièce ou une maison, mais il faut que tu attendes 12 heures avant que ça soit terminé, ces choses-là. Puis où on joue comme à plusieurs dans les mêmes environnements. Donc, c'est clairement un jeu coopératif, mais il y a clairement quelque chose à dire d'un jeu coopératif comme ça où il n'y a aucun but externe en dehors de la coopération dans le jeu. Il n'y a aucun but. Tu te gagnes dans le jeu pour faire une seule chose, ramasser des ressources, ramener tes ressources jusqu'au village, retourner chercher des ressources, les ramener jusqu'au village, puis le faire dans des endroits où il y a le plus de gens possible pour être efficace ensemble. Puis quand c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse nos clics, on ramasse nos claques, puis on s'en va dans le village suivant et on répète l'expérience.
Il y a clairement quelque chose à dire à deux niveaux. Là. Un de mes gros problèmes avec les jeux MMO et autres, c'est le fait que le gameplay est plus une série de tâches qu'une série d'actions, souvent, que de moments de jeu, finalement. Puis là, on réduit le jeu à une tâche.
Oui.
Fait que c'est si tu veux que ce soit une critique, c'en est toute une. Sauf que c'est un produit, fait que c'est un jeu qui est une tâche. Fait que, OK, c'est quelque chose. Puis quand tu dis c'est une parodie des free-to-play, mais il y a du contenu free-to-play.
Oui.
Donc, tu peux acheter des choses.
Ben, ce que tu vas acheter, c'est par exemple des meilleurs, une meilleure pelle,
mais
un meilleur
amplificateur. Mais il y a des microtransactions.
Il y a des microtransactions.
Donc, le jeu n'est pas une parodie. Les gens qui y jouent et le jeu sont une parodie d'eux-mêmes. Là. C'est, tu fais partie. Tu ris pas la joke, tu fais partie de la joke si tu joues.
C'est
intéressant, mais pas un niveau qui me fait plaisir.
Mais. Puis, sauf, tu parles d'une tâche, il y a vraiment des tâches. Là, le village ou la ville, peu importe de la grosseur que tu construis, n'est pas alimenté en électricité par miracle. Il y a des tapis roulants sur lesquels tu dois aller courir dans le jeu.
On a parlé de Black Mirror, hein? Avec les petits vélos stationnaires.
mais vraiment, tu vois ce tapis roulant, puis il y a un genre de mini-game où tu dois, comme tu sais, appuyer à répétition plus ou moins vite sur R2 pour faire monter ou elle va descendre si tu passes moins vite. Puis, il y a comme une bande de couleurs qui monte et qui descend, puis il faut juste que tu mettes ton curseur dans la section de couleurs. T'sais. Puis plus tu restes longtemps dedans, plus la dynamo fonctionne, puis plus tu génères de courant électrique pour faire fonctionner la ville. Fait que ça se peut qu'il arrive un ennemi, tu prends ton canon, pas d'énergie pour t'en servir, mais là, il faut que quelqu'un aille courir sur le tapis. Mais tu peux pas communiquer. Fait que là, il faut que tu pointes du doigt, il faut que tu siffles, il faut que tu fasses des signes. Il y a une dimension qui peut être intéressante. Il y a quelque chose.
Ça, c'est un côté que je trouve vraiment cool là, de la coopération directe. C'est comme, OK, quelqu'un doit faire cette tâche-là pour qu'on fasse telle autre tâche. Ça, je trouve ça le fun. Ça, c'est cool.
Mais puis l'environnement dans lequel on le fait est génial. Le jeu est vraiment beau. C'est vraiment incroyablement bien fait. Ils ont investi des nouvelles technologies au niveau de la programmation puis des drivers, tout ça, pour la lumière. Puis la lumière est super importante. Si tu vas dans le noir, dès qu'il n'y a plus de lumière qui t'affecte, finalement, tu meurs. Tu as besoin de rester dans la lumière. Fait que, il y a des fleurs qui éclairent, tu peux te ramener des fleurs avec toi. Il y a toutes les mécaniques pour que tu restes dans la lumière. Mais tu peux te faire abandonner. T'sais. Donc, une fois qu'une île n'a plus de ressources, elle disparaît. Puis là, tu te ramasses dans le milieu de nulle part. Puis, y a comme quand tu es dans le void et tu n'es pas sur une île ou dans un véhicule, tu vas mourir. Là. Fait que c'est des moments étranges qui vont arriver où tu travailles. Puis, à un moment donné, les ressources sont terminées, sont toutes utilisées. Fait que tout autour de toi disparaît. Mais comme c'est dans une animation quelconque, là, tu te ramasses dans le milieu de nulle part, puis tu vois au loin, il y a une petite lumière. Tu sais que ça, c'est ton village, mais tu ne vas jamais te rendre. Puis après 30 secondes, dans le void, tu meurs.
C'est si peu nihiliste, c'est vrai.
C'est très, très nihiliste. Y a des mécaniques étranges, comme attendre le bus. tu ne peux pas te déplacer d'un village à l'autre ou d'un village à une île de ressources à l'autre comme tu veux, parce que tu ne peux pas marcher entre les deux dans le néant. Donc, tu dois aller à l'arrêt d'autobus et attendre l'autobus avec les autres joueurs. L'autobus est sur un chemin prédéfini, va passer après un certain temps. Quand il arrive, il t'embarque, il t'emmène. Puis, ramener les ressources, tu dois les mettre dans l'autobus, puis l'autobus va les ramener. Puis, il faut que quelqu'un les débarque de l'autobus de l'autre côté pour aller les... Il y a toute cette mécanique-là de... On vit ensemble, avec nos camarades.
De pure coopération.
C'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre mécanique en dehors de ça. Le look avec des fois les îles avec des ressources, c'est pas juste des montagnes. Là. C'est comme une grosse tête rouge, géante, à moitié enfoncée dans le sol, avec trois gros missiles nucléaires qui sont suspendus dans le vide autour.
Avec une faucille.
Tout le look est très, très soviétique et communiste et tout ça. Comme je dis, devoir pédaler pour l'électricité pour fournir le village en électricité. Les gros géants, les icebergs, quand ils meurent, deviennent des statues. Ils meurent pas, ils disparaissent pas, ils se solidifient en statues. Et là, tous les joueurs deviennent comme des petites fourmis ouvrières qui vont grimper dessus pour ramasser les ressources parce qu'il y a des ressources spéciales dans ces géants-là. Fait que tu veux pas juste l'ignorer, tu veux réussir à le battre pour avoir ces ressources.
Mais il y a des mécaniques de jeu qui sont vraiment intéressantes. Au-delà là, du commentaire ou du manque de jeu, il y a des belles mécaniques de jeu.
C'est ce que je trouvais. Malheureusement, je te dirais qu'après une demi-heure, 45 minutes, ben, tu te rends compte que tu fais tout le temps la même chose, puis t'as déjà vu, tu sais, il y aura pas quelque chose que tu vas découvrir plus tard, il y aura pas autre chose. Puis je trouve que j'ai resté 45 minutes dans le jeu pour une seule raison, c'est qu'il y a aucun tutoriel. Okay? C'est pas une mauvaise chose en soi, il y a plein de jeux qui ont pas de tutoriel puis qui te donnent la tâche d'apprendre de tes erreurs. Ici c'est extrêmement frustrant. La première fois que tu es sur une île puis elle fait juste disparaître, puis t'emmènes dans le milieu de nulle part, puis là tu perds tout ce que tu avais sur toi, puis là ça te cause un recul dans le jeu, mais malgré toi, ta seule erreur, ça a été de travailler
de pas savoir
avancer le jeu.
C'est...
Fait que t'es un ouvrier comme tout le monde, t'es rentré travailler ce matin, puis ben, il a tombé une bombe sur son usine, puis t'es mort. Fait...
C'est... C'est ça.
Fait que ça arrive, mais l'exécution du fait qu'il n'y ait pas de tutoriel est un peu maladroite, puis elle vient pas te motiver à vouloir continuer, ça devient frustrant. J'ai jamais trouvé comment construire une maison. Je me suis fait répéter pendant une demi-heure, tu devrais construire une maison. J'ai jamais trouvé comment. J'ai regardé tous les menus, les boutons, les... J'ai parlé à tout le monde, je n'ai pas trouvé comment construire une maison. Donc, j'ai pas aidé
à sauver Mother Russia.
Ben, j'ai mis des roches à terre. Puis, on se retrouve avec des tâches de base qui sont quand même frustrantes à exécuter. Tu sais, là où en Minecraft, on tient le bouton, puis là, on va briser les blocs. Même cette tâche-là, qui est clairement copiée d'un jeu comme Minecraft, puis qui a été faite à plein d'autres reprises, est pas bien exécutée. C'est long, c'est pas précis, c'est pas... T'as aucune idée de la ressource que tu vas ramasser quand tu brises un mur. T'as pas aucune information, ça s'aligne comme aléatoire.
Ça feel très free-to-play, ça.
Ben, puis en fait, on se rend compte que c'est pas important au jeu la ressource que tu ramènes. Ce qui est important, c'est que tu sois en train de ramener une ressource.
Ouais.
Donc, le jeu perd son attrait très, très rapidement parce qu'il n'y a pas d'essence. Tout ce qu'il y a, c'est l'action en tant que telle que tu fais. Donc, t'as pas de résultat, t'as une tâche, tu fais une tâche. C'est quand même... Ça se porte très bien le message que j'ai l'impression que les développeurs ont voulu transmettre à travers le jeu, qui est peut-être une critique de ce mouvement politique-là ou quoi que ce soit. Mais ce qui a été quand même super intéressant. Si jamais vous voulez l'essayer, c'est gratuit sur PlayStation.
Je pense que c'est ça qui aide à faire que c'est autant de critiques que ça peut être un jeu. C'est qu'il est quand même jouable gratuitement et tu n'es jamais obligé de dépenser pour voir ce qu'ils veulent te présenter.
Puis ça m'a beaucoup inspiré au niveau de réfléchir à... Okay, je joue en équipe comme j'ai jamais joué en équipe. J'ai déjà joué à les MMO comme World of Warcraft. Si tu raides pas, t'as pas vraiment besoin d'une équipe. Il y a un jeu solo. Là, ce jeu-là est absent, mais c'est pas une tâche difficile comme un raid. C'est juste, on y va ensemble, on embarque dans l'autobus. Puis là, t'es debout dans l'autobus, puis les autres à côté de toi, mais tu peux pas lui parler. Il y a tout ce petit côté-là où, OK, ça crée une distance entre les joueurs. On s'ignore, on se connaît pas, on fait ce qu'on a à faire. Je vis ma vie, vis ta vie. Puis pour la mère patrie. Et c'est tout.
Mais je trouve ça aussi super intéressant parce que ça met en lumière un côté de toute la ludification qu'on a déjà parlé. Mm-hmm. Où est-ce que, check, même dans un jeu qui n'est pas un jeu, juste parce que ça a l'apparence d'un jeu, le monde va être prêt à faire une tâche qui est aliénante. Ils sont prêts à embarquer. Mm-hmm. Fait qu'imagine si tu demandes aux gens, sous ce format-là, de faire quelque chose qui est vraiment utile à la société, à vraiment travailler, déguiser. T'sais, tu préfères un jeu comme ça où est-ce que tu fais juste comme classer des documents, genre. Puis... juste parce qu'il y a un format ludique, le monde serait probablement prêt à embarquer.
Oui, parce que tu parles du jeu, puis il n'y a pas comme un but. T'sais, tu joues à Minecraft, il y a comme une espèce de but quand même. Tu peux, ou bon, dépendant des joueurs, tu peux t'en fixer, mais bon, il y a quand même quelque chose au bout de la ligne. Mais là, de la manière que tu parles de ce jeu-là, c'est.
Mais tu sais, il y a une expérience.
Un but, mais tu recommences le même but
à. Oui, mais il y a clairement une expérience à avoir, mais ce ne sera pas une expérience enrichissante. Ça va être une expérience de vivre comme un autre mode de vie totalement différent d'une autre, puis de
Ça te donne
t'amener à réfléchir un peu.
C'est ça donne une perspective unique sur un sujet que tu n'as peut-être pas acquis avant de le voir comme ça.
Puis moi, ce que je trouve intéressant quand je joue à des jeux comme ça qui sont un peu plus inconnus, c'est d'aller voir des critiques sur des comme Metacritic, puis des sites où ils font l'agrégation de toutes les critiques, puis de voir, juste aller jeter un coup d'œil aux résultats. Est-ce que tout le monde s'entend pour dire que c'est un bon jeu ou que c'est un mauvais jeu? Il y a souvent une trame qui va se suivre dans qui tout le monde s'entend qu'il lui est bon à différents niveaux, ils vont avoir des opinions, mais un jeu qui score bien va scorer bien pour tout le monde d'habitude. Puis ce jeu-là, on passe de critiques qui vont dire c'est vraiment le pire jeu au monde, les développeurs se sont plantés, il n'y a rien de bon là-dedans, passez tout droit, essayez le pas. Puis l'autre côté, tu vas le look est vraiment agréable, c'est super le fun, le jeu est super simple, puis c'est relaxant, puis c'est apaisant de pouvoir ces tâches de base-là.
Oh my god, ça me fait mal. Ça.
Mais de lire les critiques, je me disais comme, OK, mais on voit la mentalité des gens qu'ils écrivent. Là, tu peux pas critiquer ce jeu-là de façon totalement détachée, parce que ça va venir à te parler à différents niveaux, étant donné qu'il n'y a pas de monstre à tuer, il n'y a pas de fusil, c'est pas un jeu standard. Fait qu'on dirait que les critiques étaient totalement explosées aux deux extrémités là, du spectre.
Puis ça ramène aussi à la question de les jeux casual, les gens qui jouent à des jeux juste pour occuper du temps dans leur existence, vis-à-vis, hey, j'ai un message à te dire, mais tout ce que tu as compris, c'est que c'était un jeu qui meublait du temps. c'est un Candy Crush ouais, pour toi. Ça. Tandis que je suis en train de faire une grosse critique sociale intense. Ah, c'est. Non, c'est fascinant, c'est vraiment.
Mais c'est. Fascinant, c'est le mot que c'est. Plaisant, pas vraiment. Donc, sure. Est-ce que je peux pas vraiment recommander ce jeu-là à personne? Si quoi que ce soit qu'on a dit pique votre curiosité ou si vous avez un petit côté, je sais pas, communiste en vous.
Ou masochiste.
Ou masochiste, ben, allez voir. C'est gratuit de toute façon, fait que c'est facile de le tester. Mais tu sais, je peux pas vraiment donner de patte de divan à un jeu comme ça. Surtout que j'ai dû les rendre à la mère patrie en échange d'une couverture trouée puis deux, trois conserves de bin. Puis le gouvernement serait pas d'accord que moi j'ai quatre pattes de divan puis qu'on en ait juste trop, tu sais, une ou deux. Faudrait qu'on crée un peu la parité dans tout ça. Fait que, malheureusement. Mais The Tomorrow Children, une expérience intéressante.
Ben oui, ce qui s'en vient dans l'univers des Divan Quest, au dernier épisode, j'ai comme manqué la sortie sur iOS de Apollo Justice Ace Attorney.
Hey!
Hein, le spin-off là, de Phoenix Wright, ou en tout cas la suite si on veut, là, ouais. Qui est sorti le 1er décembre dernier, mais il sort sur Android le 8 décembre, donc ça marche encore, j'ai encore le droit de l'annoncer.
C'est la version avec Apollo Creed là, qui va en cours, c'est ça?
Ouais, c'est ça, Apollo Creed qui va en cours pour une histoire de...
D'avoir tué quelqu'un dans le ring. Non, ça, c'est...
Non, c'est le contraire.
Ah, c'est que c'est compliqué.
Ding, ding.
C'est pour ça que c'est Apollo qui est l'avocat, tu sais.
Ouais. Ah, c'est ça. Mais il est mort, puis c'est comme un petit fantôme qui vient du void. Ah non, je suis en rien.
Elle ne vendait pas toutes vos idées, là. On pourrait faire de l'argent avec ça.
Sinon, pas grand-chose de remarquable pour vrai. Je ne sais pas qu'il n'y a rien qui sort, mais rien qui me saute aux yeux. Fait que j'en profite pour vous rappeler que si vous avez quelque chose, vous pensez qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à ce qu'on le présente, ben on est prêt à... ben faites-nous signe, puis on va le pimper. C'est ça.
Qu'il en soit ainsi.
On mérite pas! On mérite pas! On mérite pas! On est tout petit! On est à chier!
C'est le fameux moment dans l'épisode où on prend la peine de remercier ceux qui nous donnent quelques sous sur Patreon pour nous aider à couvrir les dépenses de Divan Quest. Ben, merci à tous ceux qui participent. Et si vous voulez vous joindre à eux, ben, on a évidemment un lien Patreon sur le site web de Divan Quest, sur évidemment divanquest.com. Merci à tous nos donateurs.
Merci.
Merci.
Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, nous sommes le 5 décembre. Je commence en 1360 avec la création du premier franc français par le roi Jean le Bon. Un maudit que je les aime, les noms des rois de l'époque. Hein? Il ne peut pas être un mauvais roi. Son nom, c'est Jean le Bon.
Toujours mieux que Jean Bon.
Ben, c'est ça que je disais. Par contre, il pourrait peut-être se retrouver dans une station de radio de Québec. Hein? Jean le Jambon. Là, ou... J'avance en 1484, où il y a eu la publication de la bulle pontificale, et là, excusez mon latin, Sumis Desiderandes Affectibus, ou en traduction, le désireux d'ardeur suprême.
Oh. Ça ne nous regarde pas, ça.
c'est exactement dans nos corps, je trouve.
oui, quand même. Donc, en cette édition dominicale de Divan Quest, là, on enregistre un dimanche matin, cette bulle-là donnait l'approbation, dans le fond, du pape aux inquisiteurs Cramer et Springer de mener une violente chasse aux sorcières en Allemagne.
Oh, nice!
Oui. On entend ça, puis on a juste le goût de dire « innocent », mais ce serait parfaitement correct, parce que l'auteur de la bulle, c'est le pape Innocent VIII. J'avance en 1946, journée où New York a été choisi comme siège permanent des Nations Unies.
OK.
C'est ça.
1985,
ben on a encore des belles sorties au Famicom. Hein, on dirait que ça se poursuit avec la venue de Noël. Il est sorti comme plus proche de Noël dans le temps. Hein, la Star, c'est sorti ouais, genre
que, novembre. Qu'on a pu entendre justement dans le Coming Soon.
Oui, parce que c'était comme...
Il n'y a rien.
Mais 1985, le jeu au Famicom, Karateka, tu sais, le jeu là, où est-ce que tu cours vers un ennemi, puis là, si tu t'arrêtes pas pour te battre contre, tu meurs.
Mais qui est un port d'un jeu genre de Amiga.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi Lunar Pool qui est sorti, qui reste encore un méchant bon jeu, même toutes ces années plus tard.
Ça c'est un underrated, je pense, du Nintendo. Là. Ouais. Un jeu de pool, genre avec des tables irrégulières, finalement. Ouais. Là. Non, c'était le fun. Tu te retrouvais souvent sur les cassettes pirates de 30, 50,
et c'est là que
792 jeux.
Mais non, il y a le fun. Puis déplacer le curseur, c'était un petit peu drôle au début, mais il y a quand même...
Ouais, ouais.
Tu t'habitues, tu sais. Mais non, un bon jeu. Puis sinon, ben, je fais un petit bond en avant. En 2014, premier lancement du vaisseau spatial Orion, qui a pour but de remplacer la navette spatiale, finalement, là, pour voyager en orbite. Le lancement était celui du module de commande vide. On planifie un premier vol habité pour 2023. Hein, ça paraît hein, quand on n'a pas de course entre deux nations en guerre froide pour développer des choses pour aller dans l'espace.
On s'accorde d'air, là, puis dans 20 ans, on s'en souvient.
C'est ça.
Happy birthday to you.
Ben, je commençais en 1901 avec la naissance d'un homme qui va fonder plus tard une compagnie qui nous aura fait vivre de nombreuses émotions dans notre enfance et encore toujours plus récemment. Je donne des indices.
C'est Monsieur WD.
Oui, Monsieur WD.
40?
Puis pour ceux qui connaissent moins leur classique... J'ai un petit frisson pareil. Et oui, ben oui, la naissance de M. Walt Disney lui-même. Même année, quelqu'un de très différent, un physicien allemand qui a obtenu plus tard un prix Nobel de la physique pour son travail sur la mécanique quantique, mais surtout connu pour avoir prêté son nom à un certain chimiste fictif.
Say my name, Heisenberg. You're goddamn right.
Ça punch tout le temps au temps.
Tout le temps. Donc, Monsieur Werner Heisenberg, le vrai. Là.
Le prénom.
C'est le prénom.
C'est pas celui qui cogne, c'est ça, c'est l'autre.
Oui. Ouais. Donc, 1945, naissance du caricaturiste québécois Serge Chapleau. Voilà. Ah. Chapeau, chapeau. Puis je termine ça sur un proverbe, mettons, qui est en lien avec la journée du 5 décembre. À la Saint-Gérald, neige de décembre, c'est pour un jardin de cendres.
Blade of Steel. Nous autres, on suit des proverbes par des solos de git. Il venait devant quoi?
On essaye des choses, hein, c'est ça.
je trouve que ça marche.
Ouais, c'est ça. C'est un sucré salé pour les oreilles. Moi, cette semaine, ça a l'air qu'on avait involontairement un thème de critique sociale dans nos discussions de jeu.
Ah ouais, tu vas voir, moi aussi, c'est une super critique sociale.
J'ai déjà hâte. Comme j'ai mentionné un petit peu tantôt, oui, j'ai joué à Replica, mais de façon plus importante, mais très reliée, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Orwell, développé par Osmotic Studio, sorti très très récemment, on parle du 27 octobre 2016, disponible sur PC via Steam et aussi par Good Old Games, pour ceux qui veulent une copie sans DRM, sans protection numérique. Bref, même si le jeu aimerait probablement pas être décrit de cette façon, c'est un interactive novel, c'est-à-dire une espèce d'histoire semi-interactive où ce qu'on va principalement lire du texte. C'est toujours une mécanique de jeu qui me fascine, les jeux qui focusent sur le texte, mais il camoufle bien tout ça pour pas que tu aies juste l'impression de lire du stock sans arrêt, mais d'être en train de faire de la recherche. Parce que le jeu, puis on va parler de l'histoire, parce que essentiellement c'est que ça, vu que c'est un roman interactif, en absence d'une meilleure traduction. Orwell, dans l'univers de Orwell, c'est un programme test du gouvernement de la nation fictive du nom de The Nation, qui vise à, dans le cas d'un acte criminel, ou idéalement terroriste, de fouiller dans les présences, dans les médias sociaux, dans les communications texte sur téléphone, dans les communications vocales sur téléphone, à la limite même à certains moments dans les ordinateurs personnels des gens, s'ils sont suspectés d'un crime, s'ils sont suspects dans, bref, un attentat terroriste ou criminel. Nous, on incarne un testeur pour le système Orwell et on commence avec un test où il y a un attentat terroriste dans un square qui est le Freedom Plaza, qui est en l'honneur d'un attentat préalable où il y a eu des morts, où ils ont bâti un monument. Et il y a quelqu'un qui est reconnu là, parce qu'évidemment, ils ont des caméras partout, qui surveillent tout. Et dans une des caméras, ils remarquent la présence d'une jeune femme qui a participé à des manifestations dans le passé, puis qu'il est arrivé bon quelque chose pendant la manifestation qui l'impliquait, ce qui fait qu'elle est flaguée par le système, puis là, t'es autorisé à aller fouiller dans sa vie pour voir si elle pourrait être liée aux événements.
Tu dis ça, j'ai des frissons tellement que c'est beaucoup trop proche de la réalité.
Mais c'est évidemment le sujet que le jeu veut traiter. Avec un niveau de succès variable, on va y revenir. Donc, on commence. Le premier chapitre, en passant, est gratuit. On peut aller télécharger gratuitement le premier chapitre. Il y a 5 chapitres dans l'histoire. Le premier est complètement gratuit. Je pense que c'est la meilleure façon de vendre le concept. Malgré que une des forces, je pense, du premier chapitre, c'est qu'il nous met... on fait juste fouiller dans le passé de quelqu'un qui est suspecté. On n'est pas en train de suivre les événements en temps réel comme les autres chapitres le font. Il y a un sentiment d'urgence qui est créé par les chapitres suivants où est-ce qu'on est vraiment collé à ce qui se passe puis qu'on essaye d'assister directement à la police. Parce que, j'explique, le système fonctionne où est-ce que nous, en tant que testeurs, ben en fait, on est un investigateur qui est pour le système Orwell et on est un firewall, on est une barrière entre la police, les services, bref, de gouvernementaux qui agissent directement. Et nous, on va chercher l'information, mais les investigateurs policiers n'ont pas le droit d'avoir l'information que l'investigateur Orwell consulte. Donc, c'est à lui de dire ce qui est pertinent pour pas, bref, que la police ait accès à la vie privée des gens. Il agit vraiment comme un pare-feu. Ce qui est théoriquement une bonne idée, on s'entend, là, sur papier une bonne idée, mais qui fait que nous, en tant que joueurs, on a un droit éditorial sur l'information qui est transmise aux investigateurs. Puis, ce point-là, cette façon de présenter, tu sais, automatiquement, tu dis, OK, au bout de 20 minutes que je vais jouer, je vais sentir la culpabilité ou le poids des choix moraux que je fais. Le premier épisode le rend très, très bien. Les autres, après, un peu moins. Parce que, veux pas, ça reste un jeu. Ça reste qu'il y a une narrative qui doit être poussée vers l'avant. Ce qui fait qu'à un moment donné, s'il n'y a pas certains éléments qui sont donnés, l'histoire ne pourra juste pas avancer. Fait que tu peux pas juste comme starver les investigateurs, les policiers d'informations. C'est juste comme, ben moi, je suis pas d'accord que cette information-là soit divulguée parce qu'elle est impertinente. Ben, à un moment donné, si tu donnes aucune information, le jeu avancera pas. Ouais. Fait que ça, c'est le côté où est-ce que je comprends la nécessité du média d'avoir de l'information que le jeu avance, mais ça nous limite un peu. J'aurais été intéressé de voir un jeu comme ça où est-ce qu'il y a une limite de temps ou qu'il y a un bouton genre soumettre, puis qu'à ce moment-là, ce que tu as envoyé peut, à la limite, mettre fin au jeu si tu n'as pas donné assez d'informations, puis c'est tout, mais que tu as fait des choix, puis que c'est purement tes choix.
Moi, ouais, c'est ça, il y a comme. Ouais,
qu'il y a inclus dans la mécanique de jeu cette possibilité-là. Que...
C'est ça. Ben, si j'ai un bémol à mettre justement sur le jeu, parce qu'on s'entend là, mécaniquement, là, il n'y en aura pas très long à dire. C'est-à-dire qu'on voit des pages Internet qui sont soit une page style Facebook, puis aussitôt qu'on voit de l'information, elle va être mise en surbrillance. Puis cette information-là, on a le choix de l'envoyer à Orwell ou non. Et sur le côté gauche de l'écran, on va voir comme une espèce de diagramme des relations de tous les personnages dans l'histoire présentement, parce que les épisodes suivent la même histoire finalement. Et on voit les relations, puis il faut mettre justement les informations sur les bonnes personnes. Tu peux pas juste comme draguer l'information, puis tout se retrouve classé au bon endroit. Il faut quand même associer l'information à la personne que ça concerne, sinon le jeu, le système l'accepte juste pas. Puis il va nous présenter à certains moments des contradictions. Quand on vient pour prendre l'information, il va y avoir un avertissement jaune qui dit cette information-là contredit une autre information. Ce qui, même si on ne l'a pas encore trouvé, ce que je trouve un petit peu ridicule, là, mais ils font bien de le faire parce que le jeu nous met un petit peu des bâtons dans les roues où est-ce que si tu soumets une information, tu ne peux pas la retirer jamais. Puis l'information, surtout qui est envoyée, les policiers l'ont dans les mains. Ce qui fait qu'ils vont réagir automatiquement. Ben en fait, c'est notre handler qui l'a dans les mains, qui communique avec les services. Là. Ce qui fait que comme quelqu'un qui réagit automatiquement, on a une boîte de dialogue qui revient puis qui réagit automatiquement à l'information qu'on envoie.
Ça veut dire que tu peux pas lui envoyer une information fausse parce qu'il t'empêche, parce que c'est une contradiction.
Ben, c'est pas juste... Non, tu peux envoyer une information qui pourrait être fausse, sauf que tu pourras pas la corriger. Si tu trouves un exemple, quelqu'un qui est dans une relation, mais que tu trouves une information qui date de 2009, le jeu se passe en 2017, tu trouves une information qui date de 2009, puis tu as une update en 2012, mais ça, si c'est dans le même chapitre, ça se peut que tu puisses pas corriger l'information dans certains cas où le jeu a fait des choix. Fait qu'il y a des moments où que tu fais comme tu te sens pas en contrôle de l'information que tu soumets. Bon, c'est un petit peu un défaut narratif du jeu, mais c'est une limitation aussi, encore une fois, du fait que c'est un jeu puis que tu pourrais pas comme prévoir toutes les réactions de ton interlocuteur pour dire « Ah, tu viens de m'envoyer cette information-là, tu avais dit ça avant, donc là, que ça escalade ou que ça corrige la situation. » Mais ça fait des fois que c'est un peu aliénant parce que l'information semblait bonne, semblait pertinente, puis là, tu trouves quelque chose qui va la contredire. Parce que, comme je disais, on est sur des pages Internet qui, des fois, vont être des pages de blog. Donc là, tu as un point de vue, quelqu'un qui est personnel, mais il y a un personnage, par exemple, qui écrit pour un journal. Sauf que ce qu'il écrit dans le journal, ben c'est sa job, puis c'est public. Fait qu'il est très, très pro-gouvernement dans sa chronique, mais quand tu vois ses messages privés, puis son blog d'avant, qu'il soit éditorialiste, ben on a quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup moins filtré. Donc... Ça peut être dangereux de soumettre une information qui... T'avais juste pas l'information pour comprendre que le gars, c'est pas ça qu'il voulait dire. Oui, je sais que ça présente une des failles de ce style de système-là. C'est-à-dire que si on fouillait dans la vie des gens, ben, il y aurait un moment donné le filtre public, puis le fait de quelque chose qui était dans le privé, puis tout ça. Mais au niveau des mécaniques de jeu, ça peut être un petit peu aliénant, parfois.
Mais mettons, il y a des personnages qui ont un podcast, qui font des jokes de bat ou...
Non.
OK.
Voilà. mais comme je disais, le jeu aimerait probablement pas être appelé un roman interactif, mais plus que les chapitres avancent, plus ça le devient. On finit beaucoup par suivre des conversations par message texte ou par des transcriptions de conversations vocales, ce qui fait qu'on est là et on regarde des conversations avoir lieu pendant beaucoup de temps. Puis ça, je trouve que c'est vraiment la faiblesse du jeu.
Mais le fait, tantôt, que tu disais que, à un moment donné, le jeu, il arrête d'avancer si tu refuses de donner une donnée, une information, c'est un peu ça aussi. Là.
Ben,
ça pousse l'idée du roman interactif, parce que le gars, faut que tu donnes l'information si l'histoire, on veut qu'elle continue. Là.
C'est ça. Puis tu sais, tu as le choix quand même de quelle information tu vas donner dans cette... s'il y a une contradiction. Fait que souvent, il te donne quand même une certaine idée de choix, mais l'idée de dire, moi, est-ce que j'embarque dans un système de surveillance comme ça, ou comment est-ce que je pense qu'un système comme ça pourrait être fait de façon relativement éthique, ben, t'es vraiment limité, là, jusqu'où tu vas là-dedans. Mais bon, si on se retire de ça, l'autre point que je critiquais du jeu, c'était... l'idée où on... comment je pourrais synthétiser? Où ça se passe en temps réel, semi-temps réel, dans le sens où est-ce que les décisions qu'on prend peuvent affecter directement ce qui se passe. Un moment donné, on donne des informations pendant que la fille est embarquée dans son char, puis elle s'en va genre à telle place, puis on le sait qu'elle a un passé militaire, puis qu'elle est instable. Puis selon les décisions qu'on prend, la police est en train d'intervenir. Fait que là, selon l'information, c'est comme « Ah, elle est armée. J'ai trouvé un message texte. Elle a un gun sur elle. » Fait que ça se fait en temps réel, qui, ça peut sembler positif parce que ça crée du drame puis ça rend le tout très, très actif, mais ça enlève le côté investigateur de la patente. Ça crée un sentiment d'urgence où est-ce que t'es juste en train de faire... de décider où est-ce que l'histoire va s'en aller. Puis je pense pas que c'est ça le côté le plus intéressant à explorer de ce jeu-là. Mais c'est ça qui arrive avec Orwell. C'est que le jeu... a une narrative hyper intéressante qui profite bien de... le cadre est évident. C'est un jeu où est-ce qu'on va explorer l'invasion de la vie privée par le gouvernement. C'est clair. Le jeu l'explore de plein d'angles différents qui sont hyper intéressants, avec une mécanique qui est très, très simple. Mais, à l'instar de ça, tous les choix qu'il fait à cause que c'est un jeu nuit à l'exploration de cette idée-là. C'est un peu inévitable. C'est un jeu. Il veut être un jeu. Il veut nous conter une histoire. Puis on se rend compte, là, en bout de ligne, là, sans rien vendre pour ceux qui voudraient faire l'histoire, vers la fin du jeu, on se fait un peu un bilan de comment qu'on a analysé la situation par certains des personnages concernés. Fait que nos choix, bref, sont un peu juste comparés sur une liste à la fin, parce que l'histoire va être la même.
Comparé avec les autres joueurs?
Non, comparé avec les...
Okay.
C'est ça, comparé, en fait, c'est même pas comparé à rien, c'est juste analysé par les personnages qui finissent par voir de l'information qu'on a accumulée. Puis ils regardent un petit peu le topo, puis ils disent « Ah, il a réalisé, l'investigateur a compris ci, a compris ça. » C'est intéressant, mais c'est vraiment comme quelques lignes à la fin du jeu qui regardent nos choix. Puis évidemment, à la fin du jeu, on a comme un grand choix à faire. Mais en dehors de ça, tous les choix qu'on fait n'ont pas l'air d'avoir un impact majeur sur ce qui va se passer après, qui est un peu inévitable vu la structure narrative. Fait que je trouve que c'est un jeu qui est hyper intéressant, ne serait-ce que de jouer juste le premier chapitre. Mais encore une fois, un peu comme Tomorrow Children à quelque part, où est-ce que le concept est très très fort, l'exécution est intelligente, mais un moment donné, on arrive au bout du concept.
Ben, du côté jeu. Là.
Exact. Puis, ben, en fait, non, là, c'est inverse. En fait. C'est qu'on part à la critique, puis on tombe juste dans un jeu. Puis le jeu, ben, à un moment donné, ressemble à beaucoup d'autres graphic novels où ce que je regarde des conversations des personnages, puis que je suis comme un personnage tierce, que mon existence est reconnue, mais si peu, là, vu qu'on est comme un voyeur dans l'univers.
Mais est-ce que juste content de prendre une position par rapport à ça, le non-respect de la vie privée par le gouvernement, ou si ils prennent position de positionner ton rôle d'un peu comme, tu sais,
qui est comme un filtre que tu dis, c'est comme un job qui n'existe pas finalement. Puis je trouve ça intéressant. Okay. Dire, on nomme des juges, par exemple, à la Cour suprême en disant, toi, pour tes valeurs, pour ton expérience, pour ta carrière, juge que tu es capable de prendre des décisions au niveau de la loi. Puis pourquoi tu nommes pas quelqu'un qui dit, toi, ben, tu es quelqu'un qui a prouvé ton intégrité, tout ça, mais ben, tu vas gérer qu'est-ce qui est une invasion nécessaire de la vie privée ou non. T'sais.
Je vais dire non, parce que ce qu'ils font est encore pire. C'est que le jeu essaie, je pense, c'est au nom du jeu. Il crée un détachement avec le joueur. C'est, t'es un habitant, en fait, t'es même pas un habitant du pays. T'es quelqu'un, t'es un contractant externe parce que t'es neutre. Le but, c'est que tu sois complètement neutre, que t'aies pas d'implication dans les événements qui se passent. C'est complètement idiot. Parce que, genre, j'imagine, le gouvernement canadien engage du monde pour filtrer les réseaux sociaux, ils vont envoyer ça en Égypte, genre, avec le support de Vidéotron.
Non, mais ils ont un VPN connecté direct sur le réseau canadien, ça se passe pas.
Mais bref, c'est ça, fait que t'es vraiment quelqu'un d'externe. Ils te demandent de prendre position en tant que personne d'externe dans le jeu, je trouve ça intéressant, là, vers la fin. Ils te demandent, comme, en tant qu'individu qui... La narrative fonctionne bien où est-ce que t'es externe parce que c'est un jeu pis c'est pas réel, là. Ouais. Mais en étant comme quelqu'un en dehors du pays, ben tu dois prendre position de façon complètement externe sur les choses, fait que ça marche bien narrativement, mais ils font exprès de créer une distance.
Mais tu prends quand même position avec tes valeurs à toi, tes choix moraux à toi,
C'est ça, c'est là que je dis que ça t'en tombe un peu en miettes, parce que t'es pas un agent de l'ordre, t'es pas un policier, t'es pas quelqu'un qui a un décret, un mandat sur ce qui doit être fait. Bon.
Donc, ça reste un discours sur le problème sans apporter de solution.
Ah, absolument. Mais je pense que ça nous en prend quand même. Fait que ça, je trouve que c'est...
Ouais, mais avec un nom comme Orwell, je veux dire, dans les romans d'Orwell, il n'y a pas gros de solution non plus. Là,
c'est ça. Mais encore une fois, comme Tomorrow Children, c'est de te présenter à travers un certain prisme une réalité ou un problème potentiel, puis que ça te force à le regarder. Tu l'as peut-être pas vu comme ça. Tu n'as peut-être pas vu les dangers de ça. Puis là, soudainement, c'est comme... ben là, tu peux peut-être mieux les comprendre à travers ce jeu-là. Fait.
Ouais, puis si je me trompe pas, pour avoir regardé un petit peu des images, tu sais, visuellement, tu reconnais là, Facebook, là, même si c'est
ça,
pas... T'sais...
Ça s'appelle Timelines, mais c'est Facebook.
T'sais, tu reconnais l'interface un peu, puis le layout, là, placer comment les choses sont placées. Tu sais, c'est clair, là, ça te montre notre réalité. Là.
Exact. Puis dans certains cas même, où tu peux rapporter de l'information qui est clairement fausse si tu lis le moindrement le contexte, mais tu pourrais te promener puis juste glisser du stock puis donner de l'information qui est complètement fausse. T'sais, un moment donné, il y a un personnage qui dit dans une conversation texte carrément « Ah, je suis un avocat, genre, mais c'est quelqu'un qui utilise le compte de texte d'un autre. » Fait que là, tu pourrais associer l'information « Je suis un avocat » à la personne qui a le compte de message. Ça serait complètement faux. Fait qu'il y a des petites nuances comme ça qui sont intéressantes. Il y a une fois dans le jeu à la fin que je trouve qu'il y a une mécanique de jeu qui vaut la peine d'être mentionnée, puis c'est triste qu'il ait pas utilisé plus souvent. C'est qu'à la fin, le temps court, puis ils disent que soumettre de l'information à Orwell, ça prend du temps. Bon, c'est leur façon de dire qu'il y a du temps qui se passe, mais c'est juste que tu as un nombre d'informations que tu peux soumettre pour prouver que tu as compris ce qui se passe à la fin. Genre, c'est comme, OK, c'est qui est responsable d'organiser tout l'acte terroriste qui est arrivé? Et là, tu as juste le droit de soumettre 20 informations. Mais quand tu soumets une information, ça peut te donner accès à d'autres choses. Parce que tu dois prouver, mettons, que si tu as trouvé un numéro de téléphone, là, tu as accès au téléphone de la personne. Donc, tu as juste 20 informations à soumettre pour trouver c'est qui est vraiment responsable et où qui est probablement caché. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
En plus, tu as une possibilité d'échec aussi. Pis...
Ben, c'est ça. Sauf que là, ils le font juste à la fin parce que ça leur permet de guider la conclusion.
Ça me fait penser au livre dont vous êtes le héros, mais le détective. Là.
Ouais. Ouais. En fait, c'est une super bonne comparaison. Ou le jeu de société Sherlock Holmes, Détective Conseil. Il y a vraiment de quoi de comparable. Là. Mais à ce moment-là, je sentais le poids de mes choix. Parce que là, je sais que la fin allait être guidée. Fait que soudainement, là, tu prends un soin énorme à analyser tous les détails. Tandis que dans le reste du jeu, il y a beaucoup de murs de texte un peu inutiles, puis tu glisses des éléments dans la liste parce que c'est comme, bah oui, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais tu liras pas la page complète. Donc, un jeu concept plus fort que l'exécution, mais vu que le premier chapitre est gratuit, ça vaut à peine d'aller le consulter parce que c'est quand même un des bons moments du jeu, le premier chapitre. Voilà. Fait que c'est ça pour Orwell. Ensuite, j'ai Replica que j'ai joué pendant que je sacrais après mon PC. Le jeu,
oui.
Ça vaut à peine d'en parler en même temps parce que le jeu s'y apparente énormément. Mais a un objectif qui est complètement autre. Replica a été développé par Somi Games, sorti le 11 juillet 2016, un autre jeu très récent, disponible sur PC et depuis tout récemment sur iOS et Android. Puis c'est la façon la plus évidente de jouer à ce jeu-là parce que c'est un jeu où on doit pirater un téléphone. Le téléphone, en fait, se trouve être une réplique pixelisée d'un iPhone. Fait que c'est sûr qu'il y a un fit naturel à jouer sur un appareil mobile, sauf qu'il y a certains bémols à ça. Là. Le jeu est clairement un port d'un jeu PC très, très sommaire, le port. Fait que des fois, les boutons d'interface marchent un petit peu mal parce que les ondes de trigger doivent être trop petites. Puis, quand on fait un playthrough du jeu, parce que c'est un jeu qui repose vraiment sur l'idée de faire beaucoup, beaucoup de répétitions de l'expérience au complet, il n'y a aucune sauvegarde dans le milieu d'une expérience. Ce qui fait qu'il faut vraiment jouer comme la séquence au complet. Puis c'est un jeu qui a été monté en Unity, ce qui fait qu'il est quand même gourmand en ressources, fait qu'il bouffe la batterie. C'est quasiment un jeu où il faut que tu joues branché. Fait que c'est ça, il est vraiment parfaitement adapté à un téléphone, mais il est très mal fait sur téléphone.
Okay.
Bon, mais cela dit, c'est quand même la belle façon de le jouer parce que l'interface est excessivement naturelle, à copier celle d'un iPhone. Et dans ce jeu-là, on le démarre la première fois, là, on est devant un iPhone qui est verrouillé, tout simplement. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que je fais? Mettons que je vous mets en situation. Vous êtes devant un téléphone que vous avez dans les mains qui est verrouillé, puis votre but, c'est de pouvoir rentrer dedans. Qu'est-ce que vous faites? Automatiquement, tu as un écran verrouillé.
Je sais pas, tu regardes si c'est un mot de passe, c'est des chiffres, c'est un pattern, sais-tu?
C'est des chiffres, mais...
Ah, c'est 1, 2, 3, 4.
Voilà. Bref, je sais pas s'il réagit, si t'es comme trop maillé pour faire quoi que ce soit, mais... Tu peux appeler 911 parce que tu fais emergency ça, call.
Okay.
Puis tu fais 911. Mm-hmm. Tu as un piton emergency call, fait que tu peux appeler là. Ou sinon, tu peux. Tu as des notifications qui rentrent, puis tu peux aller comme juste lire ce qui apparaît en haut de l'écran. Puis là, à partir de cette information-là, tu peux peut-être te situer. Parce que le jeu commence. Pour vous mettre l'idée du genre d'action qu'on a à faire dans ce jeu-là, pour rentrer dans le téléphone, son mot de passe au gars, spoilers, c'est sa date de naissance. Mais il reçoit un message comme quoi, ah, c'est ta fête demain. Ah,
c'est ça.
Puis t'as date dans l'écran.
Ah, c'est bon.
Fait que là, c'est comme, OK, demain. Fait que là, 11-06. Puis là, tu peux rentrer. Si t'appelles 911, c'est intéressant parce que, comme je disais, le jeu se construit de répétition en répétition, puis ça fléchante l'univers. Donc, si t'appelles 911, là, t'as l'opérateur 911, toute la discussion, en fait, a lieu en texte à l'écran. Puis là, t'es comme, ah, je suis prêt à quelque part, puis Homeland Security veut pas me dire où est-ce que je suis. Puis là, c'est comme, ah, là, la personne du 911 fait, ah, c'est Homeland Security. OK, je vous redirige à Homeland Security. Puis c'est comme, OK, non, le gars vient de dire qu'il est prisonnier du Homeland Security, mais il le redirige. Puis là, t'as le handler qui répond. Puis là, tu vois un petit peu plus la narrative où est-ce que tu joues quelqu'un qui a été arrêté sous suspicion d'acte terroriste, puis qui doit pirater le téléphone d'une autre personne.
C'est-tu le téléphone de Patrick Lagacé?
Non. Mais c'est ça, le jeu est très, très... J'ai juste goûté ham-fisted. La subtilité n'existe pas dans la narrative de ce jeu-là. Le développeur est un Sud-Coréen, puis probablement que je sais pas s'il y a une barrière genre culturelle à la façon de conter une histoire, mais c'est très, très, très... Le message est très lourdement passé. Là. C'est toujours comme le gars du Homeland Security va t'exposer des détails que c'est comme, si t'as vraiment quelqu'un en détention, tu vas lui dire absolument rien. Là, il va faire comme, ah ben oui, mais c'est un terroriste, puis s'il va nous donner l'information de sa propre volonté, ça change complètement la donne. Puis tu sais, il t'expose plein, plein de choses, puis il y a aucune subtilité à la narrative, puis au message non plus. C'est très, très, très lourdement dans ta face. Cela dit, ça nuit pas au jeu, parce que le jeu, c'est quand même un jeu d'accumulation d'indices pour progresser, où est-ce qu'on va installer des applications fictives sur le téléphone, puis essayer de les pirater à partir d'indices, etc. Le jeu a 11 fins différentes. Ça va très, très large. Ça va autant du point où est-ce que tu décides quand même d'utiliser le téléphone pour avertir un des proches de la personne que tu as le téléphone, qui fait que tu vas passer le restant de tes jours en prison d'avoir fait ça. Et il part dans des directions hyper étranges, puis tu as des fins weird, puis il y a plein de références, justement. T'as une fin où est-ce que tu es dans Matrice, là. OK. selon des codes. Mais le jeu, il repose vraiment, vraiment sur l'acquisition d'informations, le puzzle solving, puis de rejouer d'une fois à l'autre. À la fin d'un playthrough, tu peux te faire donner... Ton handler te donne ton numéro de téléphone, dit si on a besoin de te rejoindre, ton numéro de téléphone, c'est des téléphones à 4 chiffres dans le jeu. C'est bien ça. Fait qu'on sait toujours comment te rejoindre, puis tu t'en iras pas nulle part. Mais des fois, le numéro qu'il te donne à la fin, tu peux peut-être essayer d'utiliser pour quelque chose dans ta fois d'après, puis ça va donner d'autres informations additionnelles.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que le jeu, d'un côté, il te donne beaucoup plus de liberté sur ton acquisition d'informations que Orwell le faisait. Parce qu'en étant une expérience qui est beaucoup plus courte, peut prendre des directions vraiment weird, puis les suivre jusqu'à leur conclusion logique ou illogique. Mais en même temps, il en profite aussi pour pas te tenir la main dans l'acquisition de chaque détail. Quand tu dois trouver l'âge de la personne à qui appartient le téléphone, faut que tu ailles dans le message texte, puis tu cliques toi-même sur 17. Puis c'est pas mis en jaune, c'est pas mis en surbrillance. Tu cliques dessus. Puis là, le crush apparaît. Puis là, tu reçois un message texte du handler qui dit comme « OK, good ». Fait que c'est beaucoup plus... ça te demande beaucoup plus de chercher, mais c'est vraiment d'utiliser tes connaissances du monde réel, des réseaux sociaux, de la sécurité, etc., puis de l'appliquer là-dedans et de juste explorer l'univers qui t'est donné dans tes mains. Fait que c'est sûr que le but, c'est pas tellement, encore une fois, de prendre une stance morale sur ce qui se passe là, parce que le message est très, très lourd, il est très, très dans ta face. Tu le sais, c'est quoi le point de vue de l'auteur du jeu. Mais c'est juste un jeu de découverte d'informations. C'est un jeu qui est fascinant, mais qui présente une autre façon que Orwell. Puis c'est ma raison surtout d'en parler. C'est que autant que Orwell présente que tu vas explorer une facette des dangers des réseaux sociaux et de l'information, l'autre de l'autre côté fait juste comme c'est dangereux, c'est mal, ça peut te mettre dans la merde. Okay? Mais à travers ça, je vais vous faire un jeu. Fait que je trouve que les deux se complémentent bien. Puis, ultimement, pour toutes ses faiblesses, Replica est un jeu de meilleure qualité. Orwell est une critique plus intéressante, mais Replica est un meilleur jeu. Donc, dépendamment d'où est-ce que vous vous trouvez, je vais donner le 3 pattes et demi à celui qui cible votre champ d'intérêt.
Réflexion. Sur l'épisode, je suppose. Donc, clairement, on a un thème qui s'installe dans l'épisode d'aujourd'hui.
Vous allez voir, c'est tout un thème.
ça cessera peut-être avec la réflexion, mais jusqu'à maintenant, on a un thème qui s'installe où on parle clairement de ludification, on parle de faire un jeu avec des choses qui n'en sont pas nécessairement.
Mm-hmm. Donc, et vice-versa.
Donc, pourquoi ne pas faire une réflexion sur la ludification? Donc, ludifier ou ne pas ludifier? Telle est la question.
C'est un peu cliché, ça.
Hey, mon petit Shakespeare.
Parce que c'est quelque chose qui va loin. C'est quelque chose qui va très, très, très loin. Si on pense en 2009, il y avait 27,5 millions d'entreprises enregistrées aux États-Unis seulement. Fait, imaginez, c'est 27,5 millions d'entreprises qui vont compétitionner pour avoir l'attention et le portefeuille de la même masse de clientèle. Bon, c'est sûr. Okay. Mm-hmm. Tout le monde n'aura pas les mêmes intérêts d'aller partout, mais c'est non, quand même... Il y a un nombre limité de clients possibles et il y a 27,5 millions d'entreprises qui vont essayer de trouver des façons d'attirer l'attention, de faire une publicité, de t'investir. Ils veulent que tu achètes, mais ils veulent que tu reviennes acheter plus tard. Donc, souvent, ces entreprises-là vont se tourner vers la gamification, vers de faire des concepts qui vont s'inspirer des jeux pour attirer les consommateurs. Donc, finalement, ce que c'est la ludification, bien, c'est utiliser des mécaniques de jeu pour augmenter l'engagement, augmenter la loyauté ou augmenter le plaisir qu'on a dans un environnement donné. Donc, ça s'applique à n'importe quoi. Mm-hmm. Tous ces principes-là peuvent être utilisés, peu importe la tâche qu'on cherche à accomplir. Puis on va faire ça à travers différents types de récompenses. C'est souvent un principe de récompense. Ça va être soit une récompense en recevant de l'attention, on va recevoir l'entreprise ou que ce soit va nous donner une certaine considération, une certaine reconnaissance. Ça peut être à travers des tendances sociales. Donc, socialement, on va peut-être avoir un niveau de un rating, un niveau une cote qui va augmenter. Ça peut être la peur de perdre qui peut motiver à continuer à aller de l'avant ou à profiter. Et on j'en glisse un mot tantôt. Donc, c'est différents types de récompenses. Il y en a d'autres. Mais c'est sur ça que les gens vont miser. Les programmes traditionnels, parce que c'est pas nouveau, là, la publicité, il y a ça depuis qu'il y a des entreprises qui cherchent à vendre. Mais les programmes traditionnels mettaient surtout l'accent sur les récompenses finales et non pas sur le gain à travers le processus.
Ouais, on pense par média, exemple. Là, ouais, c'est ça.
Ouais, genre de ramasser des Air Miles.
Ben, c'est exactement ça, c'est les Air Miles.
Je pense avec les bâtons de Popsicle.
Mais si on prend l'exemple des Air Miles, tu voyages déjà, tu gagnes rien à chacun de tes voyages, mais éventuellement, par exemple, ouais, on parle de voyage ou des achats.
Oui, c'est juste que Air Miles sont clairement ses voyages à cette heure.
Ouais,
mais,
ouais.
Mais éventuellement,
voyage aux gens coutus, voyage.
Mais éventuellement, mais tu vas avoir un cadeau, tu vas avoir quelque chose pour te récompenser d'avoir utilisé ta petite carte bleue. Mais utiliser la carte bleue en soi, c'est pas une expérience qui est particulièrement ludique.
Elle voit de carte Air Miles. Ouais.
Sur moi, je ferais un son quand elle passe.
C'est ça.
Parce que les versions gamifiées, ludifiées des programmes de publicité ou d'acquisition de clients, ben, ça va mettre l'accent sur les plaisirs des petits gains, finalement, donc des cartes de fidélité ou des choses comme ça, qui vont motiver le retour puis l'investissement répétitif et non pas le retour à long terme. Donc, pour une entreprise, c'est quelque chose qui est extrêmement profitable, étant donné qu'on diminue le besoin d'investissement majeur au final. Donc, je vais pas te donner un char dans un an, je vais te donner un café gratuit la semaine prochaine. Puis un autre la semaine d'après, puis un autre la semaine d'après. Donc, pour moi, l'investissement est minime, mais on a un beaucoup plus grand impact sur la clientèle directement.
On va te donner un café gratis à tous les 7 cafés que tu achètes. Tu sais, d'autres cafés là, que je te vends 2,5$ et qui me coûtent 8 cents à faire. C'est un peu
puis
ça.
C'est encore drôle. Voilà. 8 cents, c'est probablement beaucoup.
Ben, avec le verre.
Alors, avec le verre, c'est
un sac. Puis bâton.
Puis le salaire de la fille.
Fait, c'est des choses qu'on trouve partout en société. Là. On a les cafés gratuits chez Starbucks. Tu vas aller au McDonald's. On a le fameux Monopoly McDo qui est presque attendu annuellement. Les gens vont récolter ça. C'est la ludification. Là. Viens acheter mon trio. Puis c'est clair qu'il y a une des cartes, qu'il y en a genre deux exemplaires dans tous les McDonald's du
c'est
monde.
C'est clair. Mm-hmm.
Tu gagneras pas, mais on y va quand même.
Un petit trait muffin, par exemple.
Ouais. Ouais, c'est le mini petit gain. Le prix majeur à la fin qui t'est affiché, c'est pas ça que tu vas gagner.
C'est clair.
Tu es content d'avoir gagné ton muffin gratuit, ton café gratuit. Ça, c'est suffisant. Mais c'est quelque chose qui peut être dangereux, la ludification. Souvent, on en parle, c'est souvent des choses qu'on dit, tu sais, on va en faire un jeu, fais un jeu, puis on dit ça, c'est plaisant, c'est agréable, fait que pourquoi pas le faire? Il y a des dangers à ça, c'est pas toujours souhaitable ou profitable, notamment dans l'éducation. Il y a un... Okay, je vais essayer de prononcer son nom. Il s'appelle Seth Priebatsch. P-R-I-E-B-A-S-T-H-C... Avec okay. D'autres consonnes.
On mettra son nom sur les réseaux sociaux.
C'est pas nécessaire.
Juste ça. C'est un post, ouais, c'est juste ça, le nom du gars.
En fait, ce qui est intéressant, c'est le titre que on lui donne dans ses capacités d'auteur, où on dit que c'est un drop-out de Princeton de 22 ans. Donc, il a abandonné l'école à 22 ans. Et il a écrit un livre sur l'éducation.
Parce que, tu sais, il a une longue expérience sur le sujet.
Je vais pas y gricher des dents, puis je vais attendre la suite de l'histoire.
Mais en 2011, il a fait une présentation à South by Southwest, donc le festival interactif, où il parlait en fait de la couche, the game layer on top of the world, donc la couche de jeu sur le dessus du monde. Et à travers, dans sa présentation, il faisait une longue réflexion sur l'école devrait être ludifiée de façon plus poussée ou supplémentaire. Donc, on a des occasions à l'école qu'on n'utilise pas. Il compare, par exemple, les résultats d'examen qui sont une forme de récompense. Il présente la forme de la fin de l'année ou puis d'avoir ton diplôme, de passer à l'année suivante, qui est un peu le challenge qu'on va essayer d'attendre. Donc, il y a des buts, il y a des obstacles, il y a des boss avec des examens de mi-session, des choses comme ça. Il y a tout ce qui correspond à un jeu.
T'as raison, je vais faire le prochain examen de maths, je vais faire jouer le boss battle de Final Fantasy tout le long.
Mais la réaction de Dan quand t'as dit justement les notes d'examen, c'est un peu comme une récompense à la partie du jeu. Ouais. J'ai eu la même réaction que Dan, mais c'est vrai. Si tu regardes dans la structure de ce qu'est un jeu.
Moi, c'est une autre réaction. Moi, c'est le fait que je trouve que. Bon, regarde, on parle. Ouais. Je trouve que l'évaluation, c'est quelque chose qui devrait être fait pour donner un feedback, pas pour comme une finalité. C'est un problème, l'évaluation, de la façon qu'on le vit dans notre univers.
Mais c'est
je t'arrête parce que t'as raison. Parce que.
Mais arrête-les pas d'abord.
C'est pas parce que lui, il fait une présentation à Southwest.
C'est ma réflexion. C'est moi qui ai.
C'est pas parce que le monsieur avec le nom imprononçable fait une présentation dans un festival qu'il a nécessairement raison. N'oublions pas qu'il a abandonné l'école à 22 ans.
C'est ça.
Il y a quand même un bon argument sur comment on pourrait gamifier, ludifier le processus scolaire pour aller diminuer justement le taux d'absentéisme, le taux d'échec, les abandons, ces choses-là. Ouais. J'ai trouvé un article extrêmement intéressant qui vient un peu défaire toutes ses idées à lui.
Ça mérite une coupe de contrepoints.
Ça mérite une
coupe de contrepoints. C'est écœurant parce que si on décide de parler d'éducation, il y a des recherches qui poussent dans tous les sens, puis j'ai vraiment pas assez fouillé pour m'avancer.
Mais ce qui m'a poussé à aller, en fait, puis j'ai trouvé un livre à la maison de psychologie qui parle justement de ça, là, la motivation au travail, ces choses-là. Comment
t'avais,
challenger.
T'avais ça qui traînait à la maison?
Oui.
OK,
Et... Donc, j'ai fait beaucoup de lectures là-dessus. Ça m'a même amené à remettre en travail, en question, mon approche au travail, puis revoir ma façon que, quand je travaille en formation, quand je challenge les conseillers, comment je veux les amener à mieux performer dans les centres d'appel, où on a beaucoup un accès sur ça, sur la « on va en faire un jeu ». Par exemple, on fait de la vente au service à la clientèle, on se le cache pas, il y a des campagnes de vente, c'est comme dans n'importe quoi. Des vendeurs sur la route, dans un centre d'appel, des vendeurs dans un magasin vont avoir des commissions, des choses comme ça. Mais si la vente n'est pas assez élevée, on fait un concours.
OK, fait que cette semaine qui vend le plus de téléphones Samsung, par exemple, va gagner un iPad.
C'est le fun, hein, tu sais. Ouais. Vendre des Samsung, on donne un iPad.
Ou une télé 4K, ou je sais pas, tu sais. Mais donc, évidemment, on va vendre plus cette semaine.
Ou un Galaxy Note 7, on a une boîte en arrière qui explose. On peut pas les renvoyer, UPS veut pas les prendre.
En fait, on va te donner un Galaxy Note 7 à donner à quelqu'un de ton choix. Ah!
Ça fait GTA, c'est pas
vrai. Non, on joue plus à ça. Chez vous, c'est banni. Ouais.
Donc, je marche plus. C'est évident que la semaine où on a un concours comme ça, où tu dis, hey, si tu vends plus de téléphones que ton voisin, tu gagnes une télé 4K, c'est sûr que ça va faire un effort, puis ça va te motiver.
Mais exemple bien cave, là. La semaine passée, j'étais dans un congrès de profs de sciences, tu sais. Puis un des ateliers auxquels j'ai participé, il présentait un projet intéressant avec des défis à faire aux élèves, bon, pour travailler les notions. Puis super bien fait, avec des Legos et tout. Puis les gars qui présentaient le défi ont dit, hey, nous, on vous met une petite motivation. On le sait que vous êtes des profs de sciences, fait que vous savez où est-ce que vous en allez avec ça. Celui qui sera le plus loin dans le défi, parce que c'est fait pour être fait sur 2-3 périodes de classe, on avait genre une heure, on lui donne un calendrier de l'avant de Lego. T'aurais dû voir le Dan faire comme « Oh! Oh!
» Ben exactement, c'est ça. T'sais, mais c'est bien, ça t'a motivé à le faire, tu t'es dépêché, tu t'es investi à le faire. Ouais, le problème...
En tout cas, il y a une contrepartie au fait que plutôt que de prendre le temps de le faire puis de regarder les valeurs pédagogiques du projet, j'ai juste rushé, mais bon.
Mais quand ce que tu as besoin, c'est un résultat à la fin et non pas un apprentissage, comme vendre, ben c'est parfait, tu veux ça. Le problème, c'est qu'est-ce qui va arriver le jour où tout le monde va avoir une télé 4K? Quand tu vas vouloir faire ton même concours, tu vas devoir trouver plus gros. Donc, c'est le principe de donner une récompense en fonction d'une action. Ta récompense doit toujours être grandissante.
C'est un peu dur de travailler pour Oprah, ça doit pas être facile. Hein? TV 4 côté le monde, là,
Donc, c'est que ta récompense toujours grandissante devient extrêmement chère pour l'entreprise. Puis ça devient un jour, ça va devenir invivable, ça sera pas viable. Puis qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que la semaine où t'as pas le budget pour le faire, puis tu dis, OK, go, on vend, les gars, on est capable. t'es pas crédible. T'sais. Donc, le principe de récompense, c'est que ça te force à toujours investir dans des récompenses de plus en plus grandes. Et le moment où la récompense m'intéresse pas, tu m'offres un PlayStation 4, si je vends plus, j'en ai déjà un. Fait que moi, je vais pas m'investir comme l'autre qui en a pas un. Je vais peut-être faire certaines actions, mais j'aurai pas la même motivation que l'autre qui est à côté de moi, par exemple. Donc, il y a cette notion-là de motivation intrinsèque qui devient importante. Tout ce qui est les récompenses, ça devient une motivation externe à ce que je fais. Donc, moi, c'est le travail que j'ai fait au niveau de mon approche en formation quand je suis au travail, c'est de me dire, peut-être qu'il faudrait trouver une façon de ne pas te motiver de façon externe, mais te motiver de façon interne.
Et là, je te dis bonne chance.
Mais j'ai continué à lire.
Mais oui,
je me suis pas arrêté là quand même. Donc, puis on peut faire un lien avec l'éducation. T'sais, oui, si lui amenait le principe de, au lieu d'avoir des diplômes, on avait tu gagnes comme des niveaux, par exemple. Donc, tu as réussi tous tes cours, mais tu as monté d'un niveau, puis tu deviens un étudiant niveau 4 parce que tu as certaines expériences.
C'est ce qu'on fait, là. C'est carrément ce qu'on fait.
C'est ce qu'on fait, mais là, c'est de le mettre comme ça, puis d'enlever la notion où on est tous égales, puis à la fin, on gradue, mais de faire une progression linéaire. Mais tu évolues tout au long de l'année. Fait que si tu fais juste la moitié de ta session, mais tu as acquis la moitié de ta session déjà, et tu n'as pas à attendre à la fin pour avoir comme un étang, quoi, bravo, tu viens de passer l'étape. T'sais. Non, mais le danger avec ça, c'est que ceux qui ne seront pas attirés par ce principe-là, par exemple, tu n'iras pas les chercher, tu n'iras pas les motiver. Puis les gens vont étudier pour la récompense. Dès qu'il y a une récompense, je vais étudier pour la récompense. Puis c'est comme tu disais, tu as fait le travail pour ton calendrier de l'avant de Lego. Tu ne l'as pas fait nécessairement en te concentrant. Hein? Est-ce que ça m'aide à apprendre ou quelque chose comme ça? Donc, il faut essayer d'adresser peut-être la motivation intrinsèque et non pas une motivation externe. On va revenir au jeu, inquiétez-vous pas. Dans les jeux vidéo, il y a des mécaniques qui fonctionnent bien parce qu'on est dans une période de relaxation, une période de plaisir où on veut juste décompresser. Quand on arrive dans un milieu où on doit faire des actions qui sont importantes, des tâches qui sont nécessaires, ça devient un danger. Donc, ce qui ressortait de toutes mes lectures, c'est que les tâches fondamentales que tu as besoin d'exercer, par exemple au travail, si mon travail c'est de vendre, il ne faut pas que vendre devienne un jeu. Vendre doit être mon travail, doit être ma tâche, puis l'effet de vendre doit être la récompense que j'ai, et non pas, je ne dois pas vendre pour atteindre une récompense. Parce que ça ne veut pas dire que ludifier certaines tâches, ludifier certains processus, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Il y a toujours des tâches qui ne sont pas intéressantes, des tâches administratives, des tâches de qui va vider les poubelles, faire ci. Ça, ce n'est pas intéressant. Rends ça un jeu,
les gens qui veulent pas le faire, ben, ils vont tout d'un coup avoir un intérêt à aller le faire. Mais ta tâche primaire ne doit pas devenir un jeu.
Ben voilà, tu sais, c'est une question d'équilibre, une question de, il y a certains éléments qu'on peut ludifier, d'autres qu'il faut pas. Tu peux ludifier pour commencer avec une motivation extrinsèque pour que tranquillement, pas vite, tu la développes, l'intrinsèque. Je veux dire, là, on tombe dans les gros principes de pédagogie qu'il n'y a pas de réponse facile à ces questions-là. Quand on parle de l'école, il y a des systèmes de ludification qui existent. Moi, il y en a un que j'aimerais beaucoup avoir le temps d'essayer qui s'appelle Classcraft, qui est développé par un gars du Québec qui était un joueur de World of Warcraft. Il y a un petit des liens à faire où est-ce que les joueurs ont certaines habiletés qu'ils peuvent utiliser en classe, mais c'est jamais pour... en lien avec l'apprentissage, mais ça peut donner des petits trucs à l'extérieur, donner une sortie de plus pour aller aux toilettes, donner le droit de genre des niaiseries, là. Mais ça peut aussi donner un 5 minutes de plus sur ton examen, sachant très bien que ça ne changera rien sur le total, mais là, tu as l'impression d'avoir quelque chose de spécial. Bref, tu mets un système aux alentours, mais pour un peu motiver, mais en gardant qu'au centre de ça, il y a des apprentissages à faire qui, eux, sont pas un jeu.
Faire la tâche va mieux t'outiller à mieux faire ta tâche, et non pas faire ta tâche va pas t'outiller à faire quelque chose qui a aucun rapport avec la tâche.
Puis, j'avais vu justement dans toutes les discussions sur à l'école, à l'édification, il faut faire attention de jamais d'évaluer l'apprentissage. Puis chacun des cons. Il y en a qui suggéraient, genre, exemple, si tu obtiens tant de niveaux de points, tu peux finir plus tôt ou tu peux. C'est comme ça, peut pas, ça n'a pas de sens.
Non, c'est ça.
Parce que tu dis qu'être là, c'est une punition. Si une récompense, c'est de ne pas y aller. Ça, c'est un gros, gros danger.
Combien de fois on a entendu à l'école, si vous faites ça aujourd'hui ou si vous avez une bonne note, pas de devoir ce week-end. Fait que là, je viens de vous transmettre le message que les devoirs, c'est une punition. Les devoirs, c'est pas quelque chose qui est là pour vous aider. Donc, même dans notre discours.
C'est une pente glissante. Là.
Exactement.
Oui, à l'opposé de dire, si vous faites, si vous êtes fin et tout ça, on va sauver du temps, fait que je vous donnerai un peu de temps pour commencer votre devoir. Là, tu sais, là, c'est plus le même discours.
C'est ça.
Exactement. Donc, il faut être stratégique dans notre approche. Puis, les gens, en fait, ce qui arrive, c'est que les gens aiment ça. Les gens aiment les récompenses. On aime ça recevoir, on aime ça se faire gâter. Fait que c'est sûr qu'on va, on va embarquer dans ces processus-là. Puis, c'est utilisé intelligemment par les sites web, par les campagnes de publicité. On pense juste à le site web LinkedIn, qui est le genre de réseau social pour les travailleurs. À toutes les fois qu'on se connecte sur LinkedIn, toutes les fois qu'on se connecte sur la page de LinkedIn, il y a une barre de progression qui nous indique quel pourcentage de notre profil a été rempli. Donc, ton profil est rempli à, par exemple, 62%.
C'est-tu de la ludification, ça, ou c'est de feeder les tocs du monde?
Mais c'est la même chose. Ça vient jouer sur notre côté complétionniste à chacun, d'essayer d'aller de l'avant, puis je vais remplir mon profil. Je vais mettre une photo parce que j'avais pas de photo. Je vais aller mettre mes expériences passées, par exemple. Donc, c'est toutes des versions des utilisations de la gamification qui sont pas nécessairement pertinente, mais ça pourrait être utilisé de façon pertinente dans beaucoup d'endroits de notre société. Comme par exemple, on parlait un petit peu de l'environnement dans les derniers épisodes. Ça serait une super belle occasion. Si on pense juste aux notions de recyclage, de compostage, de covoiturage, ces choses-là, s'il y avait des mécaniques qui étaient installées autour de ça pour ludifier ces tâches-là, c'est pas toujours drôle de faire son compostage. C'est pas tout le monde qui veut prendre le temps de le faire. Puis on peut comprendre, t'as une famille, t'es occupé, faut te donner le bain, tout ça. T'as pas le temps de trier nécessairement les assiettes.
À Divan Quest, on parle de compostage. On le fait depuis longtemps, les récompenses pour les programmes environnementaux. On donne 5 cents pour une vide. Là.
Puis ça fonctionne.
Ben voilà.
Mais on pourrait prendre un même principe et mettre ça ailleurs. On veut inciter le covoiturage. Comme on incite le covoiturage, il y a une voie que tu as le droit d'aller si tu es deux dans ta voiture. Mm-hmm. Est-ce que ça m'incite vraiment à covoiturer? Quand je suis sur la route, je vois beaucoup de gens qui sont tout seuls dans leur voiture et prennent cette route-là quand même.
Ouais.
Donc, on ne présente pas cette option-là comme étant je vais mousser ton intérêt de covoiturer pour aller plus rapidement. Au contraire, je te le présente en disant si tu vas là et t'es pas deux, tu pognes une étiquette. Donc, peut-être que notre approche n'est pas la bonne de ce côté-là. Puis peut-être qu'il y a des gens qui pourraient se pencher là-dessus puis utiliser certains de ces principes-là pour sauver le monde.
Ben ouais! On reste encore dans le thème, 12 ans. Mais non, je l'ai dit tantôt, j'ai passé quelques jours à l'extérieur dans les dernières semaines. J'étais occupé à aller gagner des calendriers de l'Avent de Lego. Puis j'avais envie de jouer quand même à quelque chose. Fait que j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, de différent, que je connaissais pas ou que j'avais pas joué sur le eShop de la 3DS. Je voulais pas des gros jeux, je voulais voir qu'est-ce qu'il y a de le fun, puis d'autres choses. En fouillant un peu des listes de best-of, des listes de jeux intéressants, j'ai vu passer celui dont je vous parle aujourd'hui, qui avait quand même beaucoup de bons commentaires. Ça m'a donné le goût de l'essayer. Puis, je suis allé chercher Mighty Switch Force, avec un point d'exclamation là, pour faire plus dynamique. Donc, mais qu'est-ce que c'est Mighty Switch Force, avec un point d'exclamation là? Ben, on pourrait parler d'un jeu qui est un hybride de puzzle platformer 2D qui est développé par WayForward, hein, qu'on aime particulièrement.
Qui reviennent souvent dans les quand bons même. Jeux qu'on a le goût de parler.
Pour ceux qui ne replacent pas WayForward, on peut parler de Shanty au Game Boy Color à l'époque, Sigma Star Saga dont tu as déjà parlé, Mathieu, puis que je me suis acheté la semaine d'après.
J'ai parlé aussi de Aliens Infestation.
Ouais. Tor, que tu avais parlé aussi. Tu as parlé de Tor ODS?
Non, mais j'en ai parlé en privé, mais pas sur le show.
Que, bon, encore aussi WayForward, le remake de A Boy and His Blob, puis de DuckTales.
Ouais.
Donc, quand même des solides jeux.
Une belle feuille de route.
Ouais. Donc, quand je parle de Mighty Switch Force, je vais arrêter, je vais me tanner avant la fin. Là. Désolé, je ferai
non,
pas...
Non. Je l'ai fait pour Pro Force au complet, tu vas le faire pour Mighty Switch Force. Okay.
Donc, c'est comme le troisième jeu, si on veut, de la série des Mighty, même s'ils n'ont pas vraiment de lien entre eux autres que le fait que c'est des puzzle platformers avec le fait qu'on est dans des plateformes puis qu'il y a une mécanique de puzzle supplémentaire. Le premier, c'était Mighty Flip Champ, c'était ODS. Tu te promenais dans chaque tableau, il y avait comme deux maps, une sur chacune des écrans, donc qui étaient comme des miroirs, mais pas identiques une de l'autre. Tu te promenais sur la map de l'écran du haut, puis en pesant sur le bouton, ça faisait flipper les maps, donc ça te permettait d'aller, ah, si je me place là, ils vont pouvoir monter à telle place avec l'autre écran, puis faire des allers-retours comme ça. Il y a ensuite eu Mighty Milk Way au DS aussi, où tu te déplaces entre des planètes dans l'espace, là, toujours avec un petit bonhomme finalement. T'es pas dans un vaisseau, mais c'était encore une petite madame en fait. Tu te sers des puits gravitationnels, si on veut, des planètes pour te déplacer, puis des trous noirs aussi, bon, pour te faire dévier. Tu peux aussi faire exploser une planète, te donner une poussée, parce que sinon tu restes pogné sur la planète. Hein? C'est de même que ça fonctionne dans la vie. Fait que c'était l'autre habilité d'y aller avec la gravité cette fois-là. Puis finalement, Mighty Switch Force, c'est un point d'exclamation. Qui est l'histoire de Patricia Wagon, une policière cyborg qui porte des jambières là, pour courir vite. Puis un beau petit casque avec un look un peu vieux samouraï, là, mais avec une cerise de police sur le top qui lui permet d'utiliser l'habilité spéciale de Switch, finalement. Dans l'intro du jeu, ben, on voit un groupe de criminels féminins, c'est vraiment tous des personnages féminins dans le jeu, qui s'échappent, puis Pat, on l'appelait Pat parce que on a passé du temps ensemble. Qui va partir à leur poursuite. Puis c'est pas mal l'étendue de l'histoire du jeu. Là. Fait que tu sais, il y a comme eu des discussions dans les derniers temps, là, je trouve, un peu partout dans Reddit puis 9gag, j'ai vu ça passer, là, des discussions sur qu'est-ce que. Un genre de débat là, entre le gameplay puis les graphiques dans les jeux. Là. Ouais, ceux qui sont du côté que ce qui est important dans un jeu, c'est l'histoire, là. C'est pas là que vous allez avoir du plaisir.
Passer un autre appel.
Voilà. Fait que l'idée, c'est qu'on chemine d'un tableau à l'autre, là, puis chaque tableau est nommé un incident pour capturer le plus rapidement possible les 5 évadés. Qu'il y a dans chaque tableau, pour après ça aller rejoindre le point de sortie, qui est finalement l'endroit où est-ce qu'ils vont nous dropper notre gros mec de fucking gros mec de police avec des missiles sur ses épaules. Là. Parce que, comme ça, c'est de même, il y a des raisons.
Il y a toujours des bonnes raisons d'avoir un gros mec avec des missiles sur ses épaules.
En fait, il n'y a aucune mauvaise raison.
Non, la question, c'est pourquoi tu l'as pas le reste du temps, mais ça, c'est une autre histoire.
Mais...
Puis en rejoignant le mec, bon, l'embarque dedans, ça nous permet de quitter là, l'incident. Fait que, mais qu'est-ce que peut bien faire Pat?
Sacré Pat.
À part avoir quelques répliques en beauté, là, puis je vous fais entendre quelques-unes de ces répliques qui sont particulièrement savoureuses. Stop in the name of the law! Ça, c'est quand on commence un tableau. Quand on commence un tableau, elle avertit les criminels d'arrêter.
J'espère qu'elle parle pas si souvent que ça, parce qu'elle a une voix assez intense.
Heureusement, pas tant. Okay. J'ai pas mal toutes les répliques qu'elle donne. C'est comme quatre. Genre. Quand t'attrapes une criminelle, elle va dire... Un bon vieux gotcha dans les années 80. Puis quand on arrive à un checkpoint... Checkpoint! Elle annonce avec beaucoup de vitalité tout ce qui se passe. Puis mon préféré, personnellement... Yummy! Ça, c'est quand elle ramasse un petit cœur qui donne de la vie.
Bien sûr.
Ça m'a donné aussi la réplique de ma blonde qui m'écoutait jouer et qui a dit « Moi, je ferais jamais confiance à quelqu'un qui dit yummy.
» Fait que vraiment, avec la musique, on a de l'air d'entendre en arrière, puis il y a une énergie, là, ça a l'air d'être rapide comme gameplay.
T'sais, c'est pas un puzzle genre « qu'est-ce qui se passe? » Ouais. C'est un puzzle où t'es en action beaucoup. Là. Ben, justement, Patricia peut courir vite. Ben, je dis ça vite, mais dans le fond, elle court à juste une vitesse. Là. Il n'y a pas comme de bouton de turbo ou rien, là, elle court.
Il n'y a pas vite. Non. Il y a juste
vite. De vite à vite, ouais, c'est ça.
Super pertinent.
Bref, elle peut courir, elle peut sauter, il n'y a pas de double saut non plus, c'est toujours un saut unique. Pas mal l'étendue du déplacement qu'on peut avoir dans le jeu. Ce qu'elle peut faire aussi, elle peut faire des piou-piou-piou pour retirer les ennemis. En fait, les
piou-piou-piou-piou.
Exactement. Une chance que tu l'as fait. Hein.
Ben, j'espère.
Ça prend la rigueur quand même.
Donc, elle peut tirer sur des ennemis qui sont rien de bien particulier. La majorité, ça va être des gens de petites chauves-souris qui volent sur place. Puis, si tu t'approches, ils vont aller vers toi. Il y a des gens de tortues, si on veut, appelons-les comme ça, que quand tu tires dessus, ils vont se cacher dans leur carapace. Puis, tu peux pas les détruire. Mais ça te permet de les déplacer. Là. Puis, okay. Bon, de les utiliser pour certaines mécaniques. T'as un genre de Triceratops, si on veut, quand il te voit, il te charge, puis tu peux juste le tirer par en arrière. Bref, c'est des ennemis assez basiques, rien de très, très complexe. Mais bon, ils sont là. Ils servent à être un peu des obstacles dans notre cheminement. Puis ils servent aussi à, pas tout le temps, mais fréquemment, dropper les petits cœurs qui nous font dire Yummy! Pour restaurer notre vie. Fait que, à part ces petits éléments-là de plateforme, ben, la mécanique principale du jeu, c'est le fait qu'on peut justement, là, mettons des guillemets, switcher des blocs qui vont passer de solide à translucide et immatériel. Fait que quand ils sont solides, on peut piler dessus. Quand ils sont translucides, c'est comme s'ils n'étaient pas là. C'est la mécanique principale vraiment du jeu qui s'appelle Mighty Switch Force. Point d'exclamation. Mighty Switch Force.
Merci.
Point d'exclamation. Donc, c'est la mécanique principale. Puis, tu sais, ça peut sembler assez simpliste, mais en même temps, c'est vraiment bien utilisé. Là. Puis, on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance que c'est pas juste comme un bloc pour pouvoir sauter dessus, puis qu'on ressaute, puis qu'il y a un autre bloc en chemin qu'on switch pendant qu'on est dans les airs. T'sais, oui, il y a ça, mais il y a quand même d'autres trucs qu'on peut faire. Par exemple, on peut s'en servir pour tuer des ennemis. Genre la grosse tortue de tantôt, si je la recule jusqu'à temps que soit devant un bloc immatériel, je pèse sur le bouton, le bloc switch, la créature va mourir. En fait, elle va pas juste mourir, elle va vraiment être pitché sur l'écran de DS, ça va faire un effet d'écran pété, de vide brisé, comme si vraiment il avait été projeté dans l'écran. Quand même assez drôle. Puis ça est la même chose qui se produit si nous, on est devant le bloc puis on pèse sur le bouton. Voilà. Puis il y a comme d'autres blocs aussi qui peuvent nous propulser, là, qui sont immatériels. Quand ils deviennent matériels, on est comme dedans puis ça nous propulse en ligne droite. Sans vraiment jusqu'à temps qu'on arrive à un autre obstacle qui nous arrête. Là. Fait que ça a un petit côté aussi de déplacement, ces blocs-là. On peut s'en servir pour nous ou pour les ennemis. Fait que ça nous permet de faire déplacer les ennemis un petit peu aussi. Donc, c'est un certain aspect quand même assez intéressant là, pour le côté puzzle du jeu. Comme j'ai dit, on a des cœurs là, qui servent à être notre vie. Qu'on perd si on touche un ennemi ou si on tombe dans des piquants, là, des pics dans le fond des trous. Si on touche un ennemi, on perd un cœur, c'est là. Si on tombe dans un trou où est-ce qu'il y a des pics, ça va nous faire recommencer au dernier checkpoint parce qu'on ne peut pas toujours ressortir du trou. Voilà, c'est ce qui se passe avec nos petits cœurs. Si on perd tous nos petits cœurs, ben c'est fini. C'est la fin de notre vie de policière cyborg. Puis notre suit de cyborg va exploser. Puis on va retrouver Pat en petit genre de léotard bleu là, qui avec une petite face défaite. Là. Petit hommage, je pense, à Samus, si on veut, dans Metroid. Ouais. On recommence. On se retrouve au menu où on doit choisir notre tableau à ce moment-là. Fait que dans un jeu hybride de puzzle platform, c'est pas toujours évident l'espèce d'équilibre entre les styles. Je trouve que l'équilibre de jeu-là va venir un peu de notre façon de l'aborder. Tu sais, si on décide de y aller tranquillement, de prendre notre temps, d'analyser un peu le jeu, mais l'aspect puzzle est relativement facile. On comprend facilement, OK, je pourrais faire ça, l'envoyer là, puis changer comme ça. Puis après ça, les sections de platforming sont quand même bien faites, puis assez challengeantes quand même. Puis en mettant de ce côté-là là, la réflexion avec les puzzles puis le platforming, ça fait que le jeu devient quand même relativement simple. Si le fun, à mon avis, c'est quand on décide justement d'essayer de faire ça rapidement. Parce que pour chaque tableau, il y a un temps, un but en temps, si on veut, là, qui a été fixé, qui nous permet d'avoir une petite étoile quand on le finit avec le temps. Là, on s'en fout, ça ne donne rien de plus, à part peut-être l'idée de vouloir le faire plus rapidement. Puis c'est là que le jeu devient même presque frustrant des fois parce que tu sais ce que tu veux faire, tu veux battre le temps. Tu veux te rendre jusqu'à la fin, puis ce petit stress-là va te challenger. Là. Fait que là, c'est là que tu peux même pas arrêter une seconde de bouger. Il faut que tu cours tout le temps, tu sautes tout le temps, tu fais tes switches pendant que tu es dans les airs en même temps pour faire ça très, très rapidement. Parce que...
Là, ça demande une beaucoup meilleure maîtrise des contrôles.
Une meilleure maîtrise des contrôles, puis c'est très... Tu sais, il faut être hyper rapide parce qu'on se rend compte que si tu switches le bloc au mauvais moment, là, ça t'accroche un bout de patte, tu te retrouves la face dans l'écran. Puis là, on recommence, parce que là... Ben non, je suis pas mort, je pourrais juste retourner au dernier checkpoint, mais fuck, c'est sûr que je battrai pas le temps, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, on se dépêche, on saute, c'est là que ça devient intéressant. Là, faut que tu sautes, mais là, faut que tu switches vite, assez vite pour retomber sur le nouveau bloc, mais pas trop vite, parce qu'il y en a peut-être un des heures qui va être dans tes jambes, puis là, qui va te bumper. Tu sais, c'est là qu'il y a un petit côté là, plus challenge, plus plateforme, en fait, qui apparaît avec le puzzle, là. Dans le fond, le meilleur truc, c'est de les faire une fois comme un peu plus smooth pour voir un peu le tableau. Puis après ça, tu pars puis tu y vas. Mais il y en a que j'ai recommencé là, des dizaines de fois pour réussir à avoir le temps, juste parce que j'étais comme, ah, je veux le faire, je suis capable. Puis tu arrives à la fin, il te reste comme deux. Tu arrives à la fin, tu as 1,2 secondes de trop. Puis tu le sais que c'est parce qu'une fois que tu as sauté sur un bloc, tu as juste comme tombé une coche trop haut, fait que tu as fallu que tu fasses un deuxième saut. Tu as juste comme c'était tout. Là. Bon, le jeu a 16 incidents. Moi, j'ai fini le 12e. C'est là que j'en étais rendu là, quand j'ai écrit mon petit segment. Le niveau de difficulté est quand même pas pire au niveau de la courbe. Là. Même avec le temps. Là, au début, premier tableau, là, même sans trop te casser la tête, tu le réussis. Puis souvent, t'as comme. Tu sais, moi, c'est le genre de jeu que le temps, je m'en fous là, en général. Mm-hmm. Puis là, tu finis le premier tableau, tu prends ton temps, tu fais ton. Ah! Okay, j'ai juste 5 secondes de trop pour battre le par.
Et voilà.
Je vais l'essayer. Puis là, ben, c'est là que tu embarques les autres. Ben là, tu n'as plus comme un jeu aussi grand que le premier pour avoir le meilleur des temps. Là, tu n'as comme plus de place au. Mais tu as commencé. Fait que tu veux le continuer. Fait que c'est, ils ont vraiment bien réussi ça.
On part des mécaniques de ludification.
Et voilà.
Ben oui, c'est ça. ben c'est ça. Bon, il y a beaucoup de monde qui vont dire que c'est pas très, très long, 16 tableaux. En fait, je pense qu'il y en avait 14 ou 13 quand il est sorti. Puis ils ont fait un DLC à un moment donné qu'il y en a rajouté. Là, moi, dans la version que j'avais, il était déjà tout là. Mais bon, ça c'est pas super long. Mais en même temps, c'est un jeu à 6$. Là, fait que je trouve que les 16 tableaux. Surtout si tu décides de prendre le temps de le faire rapidement et de donner le challenge, pis c'est bien en masse.
Ça semble être vraiment le but. Là. Tu joues, oui, tu fais les tableaux, mais faire les tableaux, je pense pas que c'est si dur que ça en général. Là.
Non, c'est ça. Bon. C'est pas hyper complexe. Si je prenais le temps de le faire, puis si l'idée de prendre le temps, c'est aussi le fait que ben, tu as quand même 3 cœurs où est-ce que tu peux accrocher un ennemi ou toucher un pic puis tu recommences pas à zéro. Donc, tu as droit à l'erreur là, en le faisant comme ça. Puis il y a quand même fréquemment des cœurs qui t'en redonnent. Fait que quelqu'un qui veut le prendre le temps puis aller tranquillement, tu peux facilement prendre le temps puis le faire comme il faut. Fait que oui, le but est là. En même temps, je pense que dépasser de 16 tableaux, la mécanique deviendrait là, OK, on a fait le tour, là, c'est correct. Mm-hmm. Niveau visuel, là, c'est vraiment un beau jeu. Là, c'est très, très cartoony. Les couleurs sont comme vibrantes. Il y a un petit côté sci-fi à la Megaman, si on veut, au niveau du tableau puis des. L'organisation, si on veut, des plateformes. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait le plus trippé dans ce jeu-là, c'est la musique, géniale, hein, qui est encore là par un de nos préférés de Divan Quest. On devrait faire un Hall of Fame, quelque chose, à un moment donné. Je parle de monsieur Jake Kaufman.
Vert, de son nom interne web.
Qui est celui, là, le même, qui a travaillé sur une de mes soundtracks préférées que j'utilise pour travailler, justement, celle de Shovel Knight. Donc, ben oui, ça nous amène au petit segment. Ah oui, quand je travaille, ben pas en classe avec les élèves, mais quand je planifie, je corrige. Ça m'amène au petit segment où est-ce qu'on fait écouter quelques extraits de musique pour donner une petite idée du feel. Là. Je commence avec l'intro complète du jeu, là, celle que je vous expliquais tantôt, où est-ce qu'il y a les gens qui arrivent, là, puis les criminels, puis tout ça. Trentaine de secondes, ça donne un peu le feeling au jeu la première fois qu'on y arrive. C'est intense, tu commences le jeu, t'es là, je dis ah ouais, là t'as le goût d'aller pogner les criminels qui sont très drôles quand ils t'attendent. Parce qu'ils sauvent, mais dans le tableau, ils sont immobiles, tu sais. Bon, des fois, ils sont comme dans des blocs quand t'exploses, elles tombent, ils sont là, mais des fois, ils sont sur une plateforme, ils sont assis là avec un boulet après le pied, puis ils sont juste comme ils poirotent, là. C'est juste ridicule. Une des tracks peut-être les plus joyeuses ici, qui s'appelle Launch Arts.
Je suis pas sûr comment quelqu'un pourrait vouloir faire les tableaux pas à pleine vitesse pour pogner les peurs avec cette
clair.
Musique-là.
C'est comme ah! une autre qui s'appelle Jivebot, un peu plus, j'avais écrit Techno Groovy dans mes notes. Ouais.
Ça, c'est ce qui arrive quand que Daft Punk rencontre le soundtrack de Bionic Commando Rearm. C'est juste ça.
Ils ont un enfant ensemble, puis ça fait Mighty Switch Force avec un point d'exclamation.
Ça fait womp womp.
Womp womp. Puis j'en ai mis une pour terminer, un peu plus rapide, qui s'appelle Apprehend Them.
Plus rapide?
Ah, oh, ouais, ouais.
Dans ça, les DR là-dessus.
J'y allais. Dans ma tête, j'ai juste deux Japs qui courent comme des engrais sur un tapis de DDR.
Un sur deux tapis, pas deux.
Fait que, ouais, il y a le BPM dans le tapis, justement. Fait que, ouais, des tunes quand même assez diversifiées. Là. J'ai pris celles qui punchent plus. Il y en a qui sont un peu plus smooth aussi. Il y a une tune, je pense, de Boss qui est un peu plus mollo, mais qui donne un bon. T'sais. Fait que, qui s'écoute super bien aussi, une après l'autre. Là. Moi, je me suis acheté la trame sonore. En préparant le pod, j'ai fait comme. Fait que, je suis allé sur Bandcamp. Je mettrai le lien là, pour ceux qui seront motivés. Non, pour vrai, je trouve que ça s'écoute bien. Puis, Colin, tu te mets à travailler là-dessus, là, ça te donne le goût de travailler efficacement.
C'est un sacrifice, ça. Hein? T'es mieux de pas être quelqu'un qui te désamorce des bombes en ville.
Fait que, pour finir, je sais qu'il y a une suite, là, Mighty Switch Force 2, puis il doit avoir un point d'exclamation, probablement, je m'en rappelle pas, je l'ai pas noté, qui ajoute une mécanique d'éteindre des feux. T'es comme une pompière à la place d'être une police, mais c'est le même personnage. Bref, t'as encore le Switch, puis t'éteins des feux. Fait que c'est ça. Probablement basé sur The Fireman, que t'avais déjà parlé.
Oui, bien sûr. Soit ça ou sur la pète patrouille, là. Je sais pas.
Un ou l'autre. Fait que j'ai pas joué, mais il paraît que si t'as aimé le premier, le deuxième est aussi très intéressant. Mettons que je jouerais peut-être dans 6 mois, là, parce que c'était la mécanique de base, il reste la même. T'sais. Mais non, quand même, c'est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Fait que si j'ai à donner des pattes de divan, on dirait que je veux parler vite à cause des tunes, je prends le temps de me calmer. Donc, si je veux donner des pattes de divan à Mighty Switch Force, point d'exclamation, je vais lui donner 3 pattes de divan cybernétiques avec des lumières de police qui peuvent devenir immatérielles.
Hop.
Puis le divan tombe à terre.
C'est pas d'avance.
Ça. Good show!
Donc, si vous avez envie, si vous le pouvez, vous pouvez donner un coup de main au podcast en allant au patreon.com/divanquest. Sinon, les nouveaux épisodes sont sur le divanquest.com pour du feedback, du hate mail ou des suggestions de je sais plus trop quoi que tu disais tantôt. Hein?
De coupe de cheveux et de slogan pour les little butt people.
Voilà. On va aller sur Twitter au twitter.com/divanquest, sur Facebook au facebook.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzoweb.com, dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com, sur Balado Québec au baladoquebec.ca. Vous irez nous trouver, cliquez les petites étoiles, on aime ça remonter dans leur liste. Sinon, on est aussi sur iTunes. Allez faire un petit tour, commenter, cliquez les petites étoiles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux commentaires à lire. On aimerait ça, c'est fun la lecture. Donc, on aime ça, ça nous fait monter dans les rangs, ça nous rend plus visible sur iTunes, plus facile à nous faire retrouver. Donc, donnez-nous un petit coup de pouce là-dessus, ça va nous faire plaisir. Sinon, on se revoit bientôt. Et d'ici là,
Game on!
Game on!